bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Italie à Monza. Et c'est dans une ambiance chauffée au rouge que les perdants de Spa nous ont montré que la vérité d'un jour n'était pas forcément celle du lendemain. Pour m'accompagner ce soir, il va nous dire si lui aussi il a chanté l'hymne italien à la fin de la course. Bonjour Dino.
Fratelli d'Italia, l'Italia c'est déjà. Bonjour Chedi. Ah putain c'est bon. Déjà je crois qu'après la pole j'ai dû mettre sur le Twitter du SAV de la F1 un message genre putain ça fait du bien.
Ah bah oui.
Voilà. Une pole déjà c'est suffisamment rare, c'est Ferrari c'est pas signalé.
Je crois que c'était pas la première depuis...
La première depuis le Brésil 2008. Depuis deux ans.
Je te demande pas si c'était une bonne course.
Bonne course par le résultat, maintenant, oui. Ça c'est moyenne, tendue parce que pas beaucoup d'écart entre les trois premiers, mais au-delà il y avait pas forcément grand chose, c'était moins excitant.
Toi qui aimes les courses de défense un peu, tu vas être content quand même. Même si c'était pas de la défense pure,
C'était pas la défense pure, mais il y a eu une très très grosse pression d'Alonso, je pense qu'on y arrivera pas, mais moi c'est vrai que moi j'aime ce genre de course, j'aime la tension, disons j'aime bien quand ça dépasse, mais oui. Je sais aussi apprécier les moments où ça dépasse pas et où c'est très serré, et d'ailleurs je pense que dans les commentaires des auditeurs, ça revient un petit peu tout le temps.
Je crois avoir lu, il y a eu 15 dépassements pour toute la course, hein.
Dont je crois 4 ou 5 à l'actif d'Hamilton. C'est dire si ça a dépassé.
Ah oui. Bon. Nous étions le 12 septembre.
Oui.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. elle fait... C'est pas drôle, en fait.
Donc, nous étions le 12 septembre, nous étions la Saint-Apollinaire.
La Saint-Apollinaire?
Bah oui, parce qu'il y a une liaison entre le T et le A.
Oh, si tu le dis, je te fais confiance.
Et donc, quelques faits de ce 12 septembre. Et sache que le 12 septembre 1909, le chimiste allemand Fritz Hoffmann a préparé le premier caoutchouc synthétique.
Wow.
Un autre 12 septembre, tu en as peut-être entendu parler ce week-end, c'était les 70 ans de la découverte de la grotte de Lascaux par deux gamins. Aujourd'hui, on ne peut plus visiter d'ailleurs la vraie grotte. Enfin, sauf quand on s'appelle Nicolas Sarkozy. Ah bah, tiens. Puisqu'on parle de rouge, sache que le 12 septembre 1942, c'était le début de la bataille de Stalingrad.
Ah.
Bataille extrêmement importante pour l'histoire de la guerre et putain de bon film de Jean-Jacques Hano.
C'est vrai aussi.
Le 12 septembre 1959, toi qui aimes l'espace, toi qui aimes la lune,
59.
C'était le lancement. Non, c'est pas le premier pas.
Non. 59, c'est... tu l'as dit.
59.
C'est pas le premier chien ou le premier rat ou le premier, c'est pas Laïka, non?
Non, ça doit être encore avant Laïka. En fait, c'est le lancement de Luna 2,
ah, oui.
Qui est la première sonde spatiale à toucher le sol lunaire. C'est-à-dire que Luna 1, elle a pas dû toucher.
Bah, ça arrive.
S'il y a eu Luna 1.
Les mecs sont assez cons pour dire, non, on va commencer par le 2, tu sais.
Par le 2. Des naissances du 12 septembre, il y a plein de gens connus qui sont nés le 12 septembre. Le 12 septembre 1494, c'était François 1er.
Wow.
Le roi de France, hein.
Je t'en connais d'autres.
Non, mais je précise. Sinon, le 12 septembre 1913, c'était la naissance de Jess Owens.
Ah. Je comparais ta fameuse... nazie.
Oui, ouais, on est dans le thème. Le 12 septembre 1942, attention, c'est la naissance d'une légende de la télé française, on va dire.
68 ans? C'est quelqu'un ou c'est une émission?
C'est quelqu'un.
Ah, c'est quelqu'un?
Qui est toujours à l'antenne.
Drucker?
C'est Drucker.
Oh la vache.
Il est fort, hein?
Ouais.
Dans un autre
Michel,
style...
Michel, si tu nous regardes, tu nous écoutes, peux pas nous regarder, malheureusement.
Dans un autre style, le 12 septembre 1944, c'était la naissance de Barry White, Barry Blanc. Naissance aussi le 12 septembre 1957. Toi, je sais que tu connais de nom. Peut-être que les auditeurs vont découvrir. C'était la naissance de Hans Zimmer.
Ah, Hans Zimmer. Grand compositeur. Compositeur de musique. Je suis du Faucon Noir, c'est pas lui, je crois.
je crois. Le dernier samouraï, c'était lui, si je me rappelle.
Ah, le dernier samouraï. La piste 9 du dernier samouraï. Je vous le conseille. C'est un bon
petit moment.
Voilà, moi j'aime beaucoup.
Hans Zimmer, Harry Gregson-Williams, John Williams.
Voilà. Ouais, John Williams, c'est nul à chier.
Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça.
Oui, je peux, Shinji.
Dans un autre style musical, le 12 septembre 1961, c'était la naissance de Mylène Farmer.
Oui.
Voilà. Les célébrations du 12 septembre, eh bien, c'est la fête nationale au Cap-Vert.
Waouh.
Voilà. Et il n'y a pas de fête internationale. Encore une fois. Comme quoi, il n'y a pas tant de jours internationaux que ça. Non. En tout cas, ils tombent jamais les dimanches.
Et donc, il y a une belle concentration de jours cons, mais pas pendant les Grands Prix, quoi. Ça nous arrange.
Ouais, voilà.
Et un jour, on va tomber, hein, sur la fête de la chaussette ou oh bah tiens, un but de Michel Bastos en Ligue des Champions.
Oh.
Je vous tiens au courant.
Vous savez que nous enregistrons mardi soir.
Vous avez peut-être même la durée à peu près exacte.
Voilà. Donc en F1, ce jour-là, alors accessoirement, c'est le jour de naissance de Jean-Louis Schlesser. Mais je vais pas revenir sur la carrière de Jean-Louis Schlesser.
Oui, accessoirement.
Non. Le 12 septembre, faut savoir qu'en 2010, c'était déjà le 7e Grand Prix d'Italie à avoir eu lieu un 12 septembre.
Oula,
faut dire qu'entre le 1er et le 15 septembre, tu n'as que des Grands Prix d'Italie. Alors, je vais pas non plus revenir sur le Grand Prix d'Italie, même sur celui de Monza, parce que là, on pourrait y passer des heures.
J'ai eu peur. Je me suis dit, là, j'ai eu peur.
Non.
Le genre de quiz, t'as pas le droit de te gourer, quoi.
Non, je me suis juste concentré sur les événements à Monza le 12 septembre.
Ah.
Ce qui est déjà pas mal. Et donc déjà, le 12 septembre 1965, c'est la première victoire d'un champion du monde de F1.
1965, Stewart?
Bravo! Non, il avait déjà...
Oh, c'est Stewart? Oh!
Sur BRM, et c'était sa 8e course. Le 12 septembre 1976, alors ça, c'est facile. On en a parlé, j'ai envie de dire qu'on en a parlé deux fois de suite.
Bah, c'est le retour de...
C'est le retour de Niki Lauda, on l'a dit, qui avait fait une très bonne course. Accessoirement, la course avait été remportée par Ronnie Peterson. Mais bon, on pense surtout à Niki Lauda. C'était moins de 6 semaines, hein,
ouais,
après son accident, quand même. Alors, il n'y a rien à dire sur le Grand Prix d'Italie 1982. Donc, on ne va rien dire, puisqu'il n'y a rien à dire.
Oui, voilà.
Nous allons passer au Grand Prix d'Italie 1993. Et nous allons parler de Christian Fittipaldi.
Me dis pas qu'on va faire...
Pas
la vie de Christian Fittipaldi, non.
Non. Mais, au Grand Prix d'Italie 1993, Christian Fittipaldi a fait, comme on dirait, un truc.
La pole?
Non, il a pas fait la pole. Ça s'est passé pendant la course.
Il a eu un accident?
Il a eu un accident.
Oh, il a fait un backflip ou un truc dans le genre, non?
Il a fait un backflip, mais il l'a fait quand?
Au départ?
Il l'a pas fait au départ.
Dans le tour de formation?
Il l'a pas fait au tour de formation.
À l'arrivée?
Il l'a fait à l'arrivée. D'après toi, sur quel endroit du circuit?
Bah, dans la ligne droite, quoi.
Il a fait un backflip dans la ligne droite, dans le dernier tour, dans la dernière ligne droite du circuit.
À quelques mètres de l'arrivée, le con. Il faut vraiment le con.
Donc, il y a deux hypothèses, entre guillemets. Celle qui dit qu'il a passé la ligne en faisant un backflip, et celle qui dit qu'il a passé la ligne après avoir fait un backflip. En fait, c'est juste une question de savoir où était la ligne de chronométrage.
Voilà. Mais est-ce qu'il a été classé seulement?
Il a été classé 8e.
Ah bah voilà.
On va passer au Grand Prix d'Italie 1999. C'est déjà beaucoup plus près. Est-ce que tu te souviens qui avait gagné le Grand Prix d'Italie cette année-là? Moi, ça m'a surpris. J'avais complètement oublié.
99? C'est pas Schumacher?
Non, c'est...
Donc, 99... Ah, c'est pas une Jordan?
C'est une Jordan.
C'est Frenzen ou... Ouais, c'est Frenzen.
C'est Frenzen sur, ouais, Jordan. Alors moi, j'avais complètement oublié. Faut savoir qu'il s'est quand même qualifié 2e. Donc, c'est pas du tout un truc... Enfin, il n'y a pas eu de pluie, rien. Donc,
oui, voilà.
Il s'est qualifié 2e. Alors, il a eu de la chance, puisque Hakkinen, qui était premier, a abandonné. Mais bon, s'il n'avait pas abandonné, il aurait quand même fini 2e. C'est une des 4 victoires de Jordan. Et donc, on arrive au Grand Prix d'Italie 2004. Alors, c'est pas sûr, un fait marquant exceptionnel. Est-ce que tu te souviens qui avait gagné?
2004? Bon, ça fait quand même quelques années, ça doit être des McLaren ou un truc dans le genre.
Bah non.
Une Ferrari?
C'est une Ferrari.
Rubens?
C'est Rubens. C'était...
Il a gagné 3 fois à Monza, je crois.
Ouais. Alors, c'est son avant-dernière victoire pour Ferrari, parce que je crois que c'est une semaine ou 2 semaines plus tard, il va gagner en Chine, dernière victoire pour Ferrari. Et c'est vrai, faut pas l'oublier, Barrichello a gagné quand même 3 fois. Et il fait partie des pilotes qui ont gagné le plus souvent à Monza. Hein, il fait partie d'un gros paquet de pilotes qui a gagné 3 fois, mais quand je parle d'un paquet de pilotes, c'est des Senna, des Prost. Ouais. Le recordman étant Schumi, bien évidemment, avec 5.
C'est pas vrai.
Devant Ronnie Peterson avec 4. Voilà, c'était tout pour cet éphéméride. Un éphéméride léger, on va dire, cette semaine.
Oui, non, mais c'est bien.
Donc, après l'éphéméride, puisqu'on n'est plus que 2, il n'y aura pas de poleman, bien évidemment.
Non. Ça serait truqué et tu gagnerais d'avance.
Et donc, s'il n'y a pas de poleman, c'est qu'il y a des news. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JT du SAV daté du 14 septembre. Et tout de suite, nous allons commencer par un dossier spécial.
Oui, effectivement, Shinji, nous allons commencer par cette découverte archéologique d'importance puisque le 4 septembre dernier aurait été mis à jour un site exceptionnel qui semble être ni plus ni moins que les ruines d'un antique circuit de Formule 1 situé dans la province de Yeongam en Corée.
C'est méchant, tu es méchant.
Mais non, je ne suis pas méchant, honnêtement, faut voir la vidéo quand même. t'en as pensé quoi, toi, de ce tour de circuit d'abord, et puis du tracé en lui-même?
Alors, sur le décor, l'ambiance et tout ça.
Le décor.
Ouais, entre guillemets, on va dire décor entre guillemets. Ce que j'ai souligné, alors peut-être que toutes les tribunes ne sont pas là, je sais pas, c'est que autour du circuit, ça a l'air très bucolique. Hein, c'est pas, voilà, on a tendance à faire des nouveaux circuits un peu en pleine ville. Là non, on voit des arbres. C'est un endroit qui sans doute va encore être développé pendant les prochaines années, mais pendant les prochaines années, hein, pas maintenant.
Oui. Non, ils ont d'autres priorités déjà.
Sur le coup, je me suis dit, c'est drôle, pour un circuit routier, il y a beaucoup de murs.
Oui.
Mais en fait, il n'est pas complètement routier.
Non, il est en partie urbain. Enfin, c'est un circuit original. C'est généralement on a des circuits urbains, et là en fait, on a des villes circuitées. C'est une ville qui va être construite autour des circuits.
Et quant au tracé, bah écoute, ça m'emballe pas plus que ça. Il y a peut-être, ouais, comme beaucoup de gens, il y a un peu le final avec cette succession de virages, avec une espèce de dernier petit virage où en fait il faut replacer en fait un peu sa voiture. Le truc qui est complètement con, mais voilà, c'est sympa.
Je pense qu'honnêtement, sur la première portion du circuit, donc les 3 lignes droites, sur la première portion du circuit, ça va être intéressant, je pense, pour le premier tour, parce que les écarts vont pas forcément se faire, et donc on va avoir facilement bien 30 à 40 secondes de vraies bagarres à couteau tiré avec deux gros freinages qui pourront être intéressants pendant le premier tour. Mais c'est vrai que la partie sinueuse a l'air plutôt intéressante. Maintenant, faudra vraiment voir dans les vidéos,
ouais.
Parce que là, on le voit bien, Karun Sandok va
non,
pas.
Ça aide,
pas
de toute façon, la vidéo aide pas. Hein.
Voilà, mais faudra vraiment voir comment se prennent les trajectoires, et notamment, bah là, puisqu'on aura l'occasion de l'essayer sur Formula One 2010, de l'essayer sur le jeu, ça pourrait être sympa, justement pour voir les enchaînements, moi j'aime bien les virages assez tournants et assez rapides, et ça pourrait être assez sympa. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a cette première partie qui aurait mérité d'être un peu plus étoffée. Mais bon, alors, la bonne nouvelle, ça reste quand même, parce que bon, on fait des critiques sur le Grand Prix de Corée, mais la bonne nouvelle, ça reste quand même, malgré tout, qu'Armand Tilke a promis d'être plus audacieux à l'avenir. Il a d'ailleurs annoncé que le futur tracé du Texas sera le premier exemple de son audace. Bon, je rappellerai quand même, pour ceux qui ne seraient pas au courant, que au calendrier 2011, il y aura le Grand Prix d'Inde, dont le tracé est tracé par Armand Tilke. Mais bon, comme ça sera pas le premier exemple de son audace, ce sera sans doute le dernier exemple de son manque d'audace. Donc vous savez à quoi vous attendre. Même si c'est vrai que sur le Grand Prix d'Inde, il y a eu des contributions de la part des équipes, etc., pour améliorer le circuit.
Austin, ça respire l'originalité.
Alors, voilà. Alors, en même temps, j'ai envie de dire que c'est vrai que on critique souvent Herman Tilke, mais il est déjà très audacieux, quoi. Nous foutre en 3 virages, 3 lignes droites en Corée, ça c'est de l'audace.
C'est de l'audace.
Là, c'est de l'audace. Mais c'est vrai qu'il faut admettre que quand on regarde les vidéos de la Corée, c'est pas nécessairement le manque d'audace qui nous saute aux yeux.
C'est que là, ils vont mettre la dernière couche de goudron. Oui. Il y a les gens de l'équipe Tilke qui sont là. Il faut pas qu'ils se foirent. Parce que s'ils se foirent, ils auront pas le temps de refaire le goudron pour la course. Il faut que ça marche du premier coup.
D'ailleurs, je crois qu'on a appris aujourd'hui que la fameuse inspection du 21, elle allait être décalée d'une semaine, je crois.
D'une semaine, oui. Du 21 au 28.
Pour des raisons.
Inspection qui aurait dû avoir lieu au mois de juillet.
Oui, voilà.
Hein. Selon les règles FIA. Et attention, parce que normalement, si un circuit n'est pas homologué, il ne peut pas prétendent à organiser une course l'année suivante. C'est-à-dire que théoriquement, si le circuit n'est pas homologué...
En 2011, il n'y a pas le Grand Prix de Corée.
En 2011, il n'y a pas le Grand Prix de Corée.
Alors que, assez bizarrement, on a appris que Magny-Cours s'était fait homologuer FIA pour la F1. Voilà, on est quand même dans des mondes un peu...
Il y a une piste à Magny-Cours.
Oui, c'est vrai, c'est l'avantage. Mais bon, c'est vrai que t'en as parlé un petit peu, Shinji, il faut revenir, je pense, sur la principale information de l'actualité circuit qui nous est arrivée pleine tronche ces dernières semaines, puisque le tracé du prochain Grand Prix des États-Unis à Austin a été dévoilé.
Un tracé... Et là, je le dis, potentiellement, il peut être classe.
Alors,
mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un circuit américain, c'est un circuit donc un peu McDo. Et souviens-toi que les menus chez McDo, c'est des menus best-of.
Oui, voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut reconnaître que pour le premier circuit audacieux d'Herman Tilke, c'est d'ailleurs, au passage, c'est quand même très sympa pour la Malaisie et pour le circuit de Turquie, mais bon, on dira rien. C'est vrai que pour un premier circuit audacieux, ça commence très fort avec cette grande montée, parce que bon, tout le monde n'a peut-être pas vu les images, ça commence par une grande montée depuis la ligne d'arrivée, où les voitures, on estime, vont arriver à 300 à l'heure, et devraient monter quelque chose, genre 30 mètres de dénivelé. Pour dire à quel point c'est audacieux, c'est un peu comme l'eau rouge, mais en ligne droite.
Ah ouais.
Le mec a pensé de se dire, ah, l'eau rouge, faut qu'on le fasse en ligne droite.
Ouais.
Y a pas mieux. Alors ensuite, y a un virage, hein, et puis après, effectivement, alors là, on se coltine toutes les portions fortement inspirées du must du calendrier avec l'enchaînement rapide de Silverstone, une sorte de stadium à la Hockenheim, ou encore le comble de l'audace quand même, puisque là, il s'agit quand même d'un auto-plagiat. Ça, c'est de l'audace, là. Hein. Un virage à trois points de corde, qui n'est pas sans rappeler le célèbre numéro 8 de l'Istanbul Park. Sauf que là, rassurez-vous, il n'aura pas le numéro 8 théoriquement. Ça fait la différence, quoi, quand même.
C'est original.
Voilà.
On va passer à l'homme de l'actu, mais j'ai envie de dire les hommes de l'actu.
Oui, les hommes, on l'a appris aujourd'hui. Deux hommes qui font des affaires en or. D'abord Nick Heidfeld,
oui,
qui retrouve donc un baquet quelques semaines seulement après avoir quitté un autre baquet, celui de Mercedes, pour aller dans celui de la Pirelli.
Ouais.
Et le deuxième homme aussi, c'est Peter Sauber, qui a signé Nick Heidfeld au bon moment, puisque à la limite, c'est à ce moment-là qu'il faut signer Nick Heidfeld, puisque Nick Heidfeld, il a du bagage sur les pneus. C'est à la conception qu'il faut l'avoir dans ses rangs. Et donc Sauber a bien joué le coup, parce que comme ça, ils vont avoir... Nick Heidfeld va être titulaire, mais en même temps, Sauber va pouvoir commencer à penser la C30, je crois, la prochaine Sauber, en ayant déjà quelques données sur le comportement des Pirelli, et c'est quelque chose qui est quand même très important, donc un coup de maître des deux côtés.
Carrément.
À noter que Pirelli veut garder Heidfeld.
Bah oui, non mais ils ont pas fini leur test en plus.
Oui, non, alors tout le monde s'est dit, ouais c'est bien comme ça, Pirelli veut récupérer de la Rosa. Mais même apparemment, même Pirelli veut plus de la Rosa. Donc déjà qu'on on a demandé à Mercedes de lâcher son pilote parce qu'il était troisième pilote, il pouvait donner des données. Et là, genre, on va laisser Heidfeld, deuxième pilote, Sauber, avoir des datas en allant chez Pirelli. Surtout que il est con surtout parce qu'il commence à y avoir des rumeurs comme quoi peut-être qu'il y aurait un baquet chez Mercedes qui se libérerait d'ici la fin de saison.
Il a dit qu'il serait là jusqu'en 2012.
Oui, la fin du monde.
Oui, c'est vrai.
À la fin du monde, les Mayas l'avaient prédit.
Mais en fait, c'est ça, en fait, quoi. Ils ont interprété la fin de la carrière comme la fin du monde.
Voilà. C'est comme des gros fans de Formule 1, les mecs, les Mayas.
Les Mayas.
Parce qu'ils avaient déjà découvert le circuit de Corée. Tout le monde.
On passe à quelques infos en vrac.
Quelles infos? D'abord, le Conseil mondial.
Oui, qui était mercredi.
Qui était mercredi. Avec tout un tas de décisions.
Ah, oui, il y a plein de trucs.
Sur la F1, puis sur d'autres choses, hein, le double versé aussi, etc. Première, alors vraiment le coup du spectacle, on va peut-être pas s'attarder puisqu'on en a déjà pas mal parlé et que voilà. Oui. Ferrari qui n'a pas été blanchi, qui a été grisé.
Ils ont donc confirmé.
Voilà, ils ont confirmé la pénalité infligée par les commissaires à Hockenheim, à savoir 100 000 $, donc 63 000 euros, je crois. Mais par défaut de preuve, ils n'ont pas pu condamner l'écurie à plus que ça.
Oh, c'était un peu attendu quand même. Donc il y avait deux possibilités de défense pour Ferrari. Il y avait celle qu'on avait déjà évoquée, qui est de dire que d'un point de vue strict, il n'y avait pas eu de consigne, qu'ils avaient juste donné la situation de course à Massa. Et l'autre, qui était quand même beaucoup plus offensive, alors on ne sait pas, hein, parce qu'on n'a pas non plus les détails du conseil de comment ça s'est passé, comment s'est passée la défense de Ferrari, qui aurait pu être de Ferrari de dire Non mais attendez, nous on a fait des pseudo-consignes, mais on n'est pas les seuls. Et notamment, il y aurait eu un exemple avec McLaren.
Ouais, c'est ce qu'ils ont fait.
Voilà. Mais la règle, en tout cas, va être modifiée. Alors, modifiée, supprimée, on ne sait pas ce que ça va donner.
Est-ce que, alors, on a notamment Schumacher qui a un peu partagé l'opinion que moi j'avais exprimée, à savoir que il faut peut-être passer par une règle beaucoup plus précise et plus détaillée, en définissant des situations, notamment d'un point de vue de télémétrie.
Apparemment, pour, à dire au plus tard pour le règlement du début de l'année prochaine, et ils veulent sortir quelque chose, voire carrément supprimer la règle.
Alors ensuite, on peut peut-être parler aussi dans les décisions du Conseil mondial. D'abord du calendrier 2011 qui a été annoncé avec, sans surprise, le débarquement du Grand Prix d'Inde.
C'est une évolution de 2010, en fait, il n'y a pas grand changement. Ouais. Il y a l'arrivée du Grand Prix d'Inde et aussi un petit changement qui fait plaisir quand même, Brésil et Abu Dhabi,
ouais,
qui inversent leur route. Donc fin de saison au Brésil.
Et un autre changement important aussi, le fait de déplacer la Turquie, qui était cette année le troisième Grand Prix européen, en premier Grand Prix européen, ce qui permet finalement de mieux organiser les trajets,
une meilleure logistique,
ouais. Une meilleure logistique pour les écuries et pour les pilotes. Et ça, c'est vrai que c'est assez appréciable du point de vue des écuries et des pilotes.
Donc 20, ça va être la plus longue saison de F1 de l'histoire.
Mais ça ne sera pas le plus gros plateau de l'histoire, puisque nous n'aurons toujours maximum que 12 écuries, en fonction de la vitalité de HRT et de Virgin Racing à la reprise de la saison. Nous n'aurons donc effectivement que 12 écuries, puisque la FIA a décidé de freiner les quatre fers et donc de ne pas officialiser une 13e écurie, les candidats étant Stéphane Grand Prix, jugé pas assez sérieux, et donc Durango Villeneuve et de l'autre côté Epsilon Euskadi, qui elles n'ont pas été jugées suffisamment armées pour pouvoir affronter la Formule 1.
Ils veulent pas un autre HRT, en fait.
Oui, et puis en même temps, c'est aussi finalement une décision prudente de ne pas faire rentrer dans la course aux sponsors, et voilà, de pas faire rentrer un nouveau concurrent à des équipes qui sont déjà à la peine, quoi. Quand on voit HRT et Virgin, ils vont encore avoir besoin d'une saison en plus pour se retrouver des sponsors, etc., pour se solidifier. Et ça, malheureusement, si t'en mets un troisième, ça leur complique un tout petit peu la tâche, parce que ça leur fait de l'ombre et ça leur fait de la concurrence.
À noter parmi les petites équipes que Lotus a fait parler d'elle, enfin, on va dire c'est le retour d'un binôme, puisque c'est le binôme Lotus-Renault, ouais, qui date des années 80,
qui n'est pas encore probablement même. On a dit, voilà, il n'y a plus de Cosworth, donc tout le monde se dit, bon, s'il n'y a plus de Cosworth, il y a un Renault derrière. Même s'il y a eu, c'est vrai, il y a eu une espèce de trouble dimanche midi vers 13h40.
Ah oh mon Dieu, oui. C'est lié aussi à une annonce qui a été faite. Et c'est peut-être ça qu'il a... Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui est passé par la tête de Jean-Louis Gonset. Puisque, d'une certaine façon, il a raison. L'an prochain, il n'y aura plus Lotus Racing. Il n'y aura plus Lotus Racing en F1. Puisque Lotus Racing va se renommer Team Lotus, qui est le nom historique de l'équipe Lotus.
Voilà.
Puisqu'en fait, ils auraient trouvé un accord avec David Hunt, qui était propriétaire en quelque sorte des droits sur le nom. Et donc, l'an prochain, donc ça sera Team Lotus. Ils reprendront le fameux logo Lotus avec, vous savez, les lettres. Vraiment le logo historique Lotus. Donc, c'est vrai que d'une certaine façon, oui, Lotus Racing ne sera plus en F1 l'an prochain. De là à dire qu'ils vont peut-être partir aux États-Unis...
Il y a d'abord la partie, effectivement, il y a des petites affaires judiciaires en ce moment, surtout entre Force India et Lotus, autour d'Aerolab. On rappelle vite fait l'histoire, Aerolab, c'est une compagnie de recherche aérodynamique qui appartient, d'ailleurs, je crois, à McGascoigne, qui travaillait pour Force India et qui, avec l'arrivée de Lotus, a cessé son contrat avec Force India et a travaillé donc pour Lotus. Et Force India soupçonne qu'entre temps, il y a eu échange illicite d'informations sur la Force India, prétendant une certaine ressemblance entre la Lotus et la Force India. Voilà.
Ouais.
Donc il y a cette histoire qui tacherait un petit peu le nom de Lotus, et il y aurait en même temps effectivement la volonté d'aller de davantage se concentrer sur l'IndyCar. Donc c'est un grand micmac, mais bon, pour le moment il n'y a rien qui permet de penser que Lotus va retirer son nom à Proton, puisque c'est Proton qui est derrière Lotus.
Oui.
Et il n'y a rien, pour le moment, il n'y a aucune raison de penser que Lotus, l'écurie Lotus, ne sera pas l'année prochaine sous un...
D'une façon ou d'une autre, l'équipe sera là, probablement avec un moteur Renault et tout.
Alors justement, comme on parle des moteurs, on peut peut-être revenir aussi sur la... Puis là, je vais te laisser parler, parce que c'est... Je sais que tu es ému par cette réglementation 2013 qui se profile, ce retour vers le futur.
C'est un mélange de retour vers le futur et de Capitaine Picard, pour ceux qui connaissent. Puisque c'est vraiment la F1 next-gen qui nous attend. Puisque, alors, rien n'a encore été officialisé, mais on a des grandes lignes, on va dire, de ce à quoi pourrait ressembler la F1 en 2013. Donc, d'un point de vue aéro, alors, on n'a pas eu de précision sur tout ce qui est aileron, donc, est-ce qu'on aura toujours nos pelles à tarte devant et nos petits ailerons derrière? Rien n'a été dit, à ce niveau-là. Au niveau de l'aéro, alors, mais évidemment, ça va dépendre d'énormément d'autres éléments. Ce qu'il se dit, c'est que les pontons des voitures seraient beaucoup plus avancés pour mieux protéger les pilotes. Donc on pourrait peut-être avoir des voitures qui ressembleraient un peu plus à ce qu'on a en IndyCar aujourd'hui.
Même ce qu'on avait en Formule 1 jusqu'aux années 90,
même en F1,
je crois.
Voilà. Au niveau de l'aéro, l'un des grands retours, c'est le retour de voitures à effet de sol qu'on n'avait plus revu depuis fin des années 70, début des années 80.
Donc, grosso modo.
Je me souviens bien, les Wing Cars.
Voilà, le principe, c'est que tout l'effort aérodynamique se fait par le dessous de la voiture.
Oui.
Et non plus par le dessus, ce qui fait que ça permet d'éviter, tous les appendices aérodynamiques qui cherchent à maximiser.
C'est vraiment l'effet de l'aile d'avion, mais poussé à fond, quoi.
Et puis, voilà, c'est finalement aussi un petit peu dans la logique du double et triple diffuseur. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe, quoi. C'est créer de l'appui par le dessous.
Et donc, au niveau de la motorisation, ça avait déjà été évoqué, donc on partirait bien donc sur du 4 cylindres, avec un double turbo, avec du KERS, mais alors là du KERS qui tiendrait 30 secondes par tour et qui donnerait 150 chevaux facilement, parce que sachant que le moteur de base serait dans les 650 chevaux, limitation à 12 000 tours, mais bon en même temps c'est pas les mêmes moteurs, donc c'est vrai que c'est pas forcément comparable par rapport aux 20 000 tours d'un moteur atmosphérique V8 ou V10.
Il y aura également aussi la limitation, il y aura un système qui permettra de limiter le débit d'essence.
Oui.
Histoire de...
D'un point de vue écologique, oui, c'est d'avoir des moteurs plus efficaces écologiques.
Et en même temps, pour finir aussi avec cette polémique constante depuis plusieurs années sur le rééquilibrage des moteurs, etc. Là, les moteurs seront plafonnés en termes de puissance et plafonnés en termes de consommation. Donc, grosso modo, c'est des moteurs à peu près uniformes.
À noter aussi pour le KERS que, donc, il récupère l'énergie cinétique au freinage. On a parlé aussi de récupération d'énergie calorifère. Parce que vraiment, lorsqu'il y a le freinage, il y a de la chaleur qui est dégagée. Donc, vraiment des belles pistes. Et alors, pour les moteurs, on parle d'un resserrement encore de la règle des moteurs, puisqu'on parle de 5 moteurs par an, ce qui voudrait nous dire un moteur pour 4 courses. Hein.
Ferrari, il va dans la mer.
Oui, et d'ailleurs, Ferrari, c'est un peu plein. Alors, si tout le monde est d'accord pour dire que, notamment pour les moteurs, il faut se mettre d'accord maintenant, pour justement avoir le temps de développer les moteurs, chez Ferrari, le 4 cylindres... C'est pas trop leur tasse de thé.
Ah oui, ils préfèrent le V6, hein, c'est ce qu'ils vendent. Hein.
Voilà, eux, ils veulent du V6. Bien évidemment, on comprend bien que... Parce que le but des nouveaux moteurs, c'est aussi d'attirer des constructeurs. Et donc, en faisant un moteur plus proche du moteur de Monsieur Tout-le-Monde, les transferts de technologie paraissent plus simples. Mais évidemment, Ferrari, eux, ils vendent pas des Twingo, hein. Ils vendent des beaux V6. Pas certain qu'on va les écouter sur ce point-là. Parce que visiblement, il y a quand même un gros consensus sur la nouvelle génération de moteurs. Et à noter aussi pour les pneus, ça avait été évoqué lorsqu'on avait parlé de Michelin, Pirelli, les pneus pourraient passer en 18 pouces, alors pas d'un coup par contre. Donc on passerait d'abord de 13 à 15, et ensuite de 15 à 18, mais sur 2-3 ans.
Voilà.
Donc des fins qui s'annoncent radicalement différentes. Voilà, je crois que c'était à peu près tout sur la réglementation 2013. Mais bon, on aura encore beaucoup de nouvelles, je pense. Donc voilà, c'était tout pour 2013. Alors, on va revenir un peu en arrière, mais on va quand même parler du futur. On va parler des transferts.
Oui, des transferts, à commencer par la grosse bombe. Non, la petite bombinette qui a atterri dans la presse aujourd'hui, à savoir que la piste Renault pour Raikkonen se réchaufferait. À savoir que ça serait même plus Renault qui chercherait à voir Raikkonen, ça serait Raikkonen qui aurait contacté Renault. Ça reste quand même à mettre avec des pincettes, puisque
oui.
Renault cherche peut-être aussi par là à se faire un peu mousser, en montrant que voilà, maintenant ils ont réacquis le statut pour attirer de grands pilotes. Donc quoi qu'ils ont déjà coupé de ça. Donc voilà, reverra-t-on Kimi? Shinji, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est crédible ou pas?
Il serait pas le premier à faire une pause d'un an et de revenir.
Ouais.
Ça, surtout que lui, il est resté quand même... Enfin, c'est pas un an de pause qu'il a fait.
Mais voilà.
Maintenant, s'il revenait en F1, ce qui serait gênant, en fait, c'est qu'il risquerait de perdre un peu quand même son année de WRC.
Ouais.
Ça serait peut-être un peu dommage. Bon, après, c'est vrai que... Vu ce qu'il y a actuellement en WRC, il y va pas pour être champion du monde, ça c'est clair. Quand on voit ce qu'il y a en face,
face
dans sa propre équipe, voilà, il y a du très très lourd.
Ah, disons que quand on voit qu'il arrive sur la fin du règne, parce que c'est la fin du règne Loeb, disons qu'on est plus proche de la fin que du début, qu'il y en a un petit Sébastien Ogier qui est en train de taper très très fort à la porte.
Oui, voilà.
C'était pas le bon moment pour arriver en WRC.
Mais en même temps, il ne vient pas en WRC pour être champion du monde.
Voilà.
Je ne crois pas.
Est-ce que tu pourrais supporter Kimi Räikkönen en jaune et noir? Tu sais, une espèce de grosse maille à l'abeille alcoolique, tu sais, un gros bourdon imbibé, tu vois.
Oui, non, mais je sais, bien sûr, il aura l'air d'un gros bourdon, mais je m'en fous.
Ah, dis donc, t'es prêt à assumer ces couleurs-là? Ah, si, dis, tu m'étonnes. Moi, je pourrais pas. Prépare-toi à des surprises, parce que moi, quand j'ai vu Schumi en gris, ça m'a fait tout bizarre.
Oui, mais c'est moche, le gris. Et puis, on sait jamais. Puis, Renault, ils vont peut-être s'améliorer l'an prochain.
Ah, s'ils ont Mastercard. Ils auront 15 couleurs sur leur tenue.
Ils sont orange et rouge, Mastercard.
Ah, bah, ça, c'est classe. Dans les transferts, on a Heikki Kovalainen, qui nous précise qu'il sera en Formule 1 en 2011, puisqu'il aurait signé un contrat, mais il ne nous indique pas avec qui. Donc certains envisagent déjà un retour d'Heikki Kovalainen chez Renault à la place de Petrov. Why not? Quoique la piste Lotus l'année prochaine reste comme une piste très solide.
Oui. Autre chose sur les transferts?
Non, c'est tout sur les transferts. C'est même tout sur les infos en vrac.
Alors on va passer à une rubrique, on peut dire.
Oui, une petite rubrique dans le JT, une mini rubrique dans le JT.
Rubrique, hein? Qui s'appelle ce moment les invérifiables.
Oui, c'est ces petites infos qui circulent. Hein, ce petite rumeur que tout le monde contredit, que tout le monde balance et qu'en même temps on peut pas les vérifier. Au premier rang desquels on citera quand même que Renault pourrait racheter Renault en 2011.
Oui.
Voilà. Crédible ou pas?
Ah, quand même, ils ont l'air d'être très contents de cette séparation entre guillemets Renault.
Ouais.
Ils trouvent quand même énormément de bénéfices, hein. Ça leur coûte moins cher. C'est toujours leur nom sur la voiture. En plus, la voiture tourne plutôt bien cette année. Peut-être sur le long terme, ça arrivera. Hein, qui voilà. Sait. Par contre, peut-être, ce qui pourrait arriver, c'est non pas un rachat de Renault, c'est une part de Renault qui resterait fixe. Ils ont combien à peu près, Renault?
Ils ont 25% contre 75% pour Gravity.
Ce qu'on peut imaginer, c'est que la part de Renault reste, et que Gravity revend plus tard, en fait, des bouts de ces 75%.
Oui, voilà, soit Gravity revend, ou même, à la limite, pourquoi pas voir Renault augmenter sa part au capital, pourquoi pas passer à 50%,
oui.
Et 149% à Gravity.
Ou voir aussi d'autres actionnaires, de façon McLaren, où ils sont 4-5, voilà. D'autres rumeurs.
Dans les invérifiables, toujours dans le rachat d'équipe. Alors là, j'ai pas trouvé trop d'infos là-dessus. Ça a été immédiatement démenti par Peter Sauber, mais on a évoqué un temps le rachat de Sauber par Berger. Crédible ou pas?
Ouais. Autant on dit Sauber et Hart, Sauber et Berger.
Oui.
Ouais. Enfin, en plus, apparemment, ils ont l'air d'être confiants pour 2011.
Oui, donc.
Pour l'instant, s'ils ont les sponsors pour l'an prochain, je crois qu'il n'y aura pas de soucis.
À la limite, pourquoi pas en rentrer dans le capital. Maintenant, un rachat de Sauber, je pense que dans ce cas-là, il revendra à vraiment quelque chose de vraiment plus solide que Gerhard Berger, qui, je parle pas atteindre à Gerhard Berger, mais Gerhard Berger, ça reste quand même un projet assez obscur autour, hein, qui achète, quoi, comment. Je pense que Sauber revendra l'écurie avec comme ambition derrière de savoir qu'elle est revendue pour rester en Formule 1 et rester sur le long terme. Donc, soit un constructeur, soit un groupe qui a déjà une certaine présence en Formule 1. C'est pour ça que la piste de Hart était intéressante.
Il s'est quand même démené pour la sauver, c'est quand même pas pour qu'elle disparaisse.
Voilà.
Autre chose?
Et enfin, un dernier invérifiable, ça a été l'une des grandes rumeurs, un peu fofolle, l'échange de baquets pour 2011 entre Felipe Massa et Robert Kubica. crédible, pas crédible.
Il y a des contrats quand même.
Voilà, il y a des contrats, puis bon, honnêtement, Massa fait un bon numéro 2, alors que...
Massa fait un bon numéro 2, Kubica, il est désormais le roi chez Renault. Je vois pas trop l'intérêt pour Renault. À la rigueur, pour Ferrari, ça peut se comprendre, mais en même temps, Ferrari, ils ont besoin d'un numéro 1 et d'un numéro 2. Puis Robert, il a pas forcément envie d'être numéro 2 chez Ferrari. Enfin, lui, il veut peut-être aller chez Ferrari, mais pas pour être numéro 2. Mais s'il y est, il sera numéro 2, voilà. De toute façon.
Puisque là, pour le coup, Alonso sera déjà en place.
Ah oui, là...
Donc, il est d'ailleurs d'autant plus en place qu'il a gagné à Monza.
Ah bah là, oui, c'est... Oui, il a été adoubé dimanche, donc...
Bon, voilà, c'était tout pour les invérifiables. On verra s'il y a encore des rumeurs dans ce genre qui circulent.
Et donc, tu voulais finir par une autre petite rubrique. Enfin, petite. C'est la rubrique polémique.
Oui, parce que... Que serait la F1 sans une bonne polémique? Et moi, j'avais envie de revenir sur une polémique qui... Polémique, est-ce vraiment une polémique? Mais en tout cas, une petite polémiquette qui agite...
Polémiquette.
Une petite polémiquette qui agite le paddock, puisque on a parlé tout à l'heure du Grand Prix de Corée. Red Bull a inauguré le Grand Prix de Corée avec la RB6, je crois. Non, la RB5. Avec oui. Chandok à son bord. Ils ont fait 14 tours. Et certaines voix commencent à s'élever en disant qu'il y aurait un avantage pour Red Bull, à condition, bien évidemment, que le Grand Prix de Corée ait lieu cette année. Alors la question toute simple, c'est Shinji, est-ce qu'il y a un avantage ou est-ce qu'il n'y aura pas d'avantage? Et j'ai écrit, faut tout confier, j'ai écrit entre parenthèses, Dino doit prendre la position inverse de Shinji. Je vais essayer.
Bon, eh bien moi je vais te dire qu'il n'aura pas d'avantage puisqu'il aurait une piste de F1.
Oui.
Ce qu'il n'a pas vraiment fait quand même, hein, faut bien le dire. Puisqu'il n'y avait pas la dernière couche de bourbon, ça veut donc dire que déjà Red Bull ne connaît pas exactement comment la piste, est-ce qu'elle sera à Brésil, est-ce qu'elle ne le sera pas?
Il faut aussi dire aussi que quand on regarde le test, il faut quand même des tests avec des pneus pluie, que comme tu l'as dit, alors déjà les pneus pluie ça fausse considérablement les datas, avec un pilote qui est pas un pilote Red Bull, hein, il vient débarquer, certes c'est un pilote de F1 qui a fait des grands prix cette saison, mais c'est pas un pilote Red Bull à proprement parler, donc il a pas forcément un vécu avec les ingénieurs et pas forcément des habitudes avec la voiture. Faut aussi voir comment ont été faits les tours, ils sont extrêmement lents avec une prise de risque impossible puisqu'il y a encore des véhicules de chantier autour du circuit, parce qu'il y a encore, comme tu l'as dit, il manque le goudron, donc il y a encore une marge de facilement 5 cm par rapport à la hauteur normale de la piste, donc il n'y a pas la même prise de risque que si le circuit avait été terminé, donc avantage.
Ils ont pris quelques marques,
voilà, c'est ce ils savent déjà. Mais un petit peu dans quel sens
que ça va être vraiment un avantage. Ou...
Finalement, peut-être que ça pourrait se retourner contre Red Bull. À savoir que peut-être qu'ils auront pris des datas et que ces datas vont se retrouver totalement fausses. Puis finalement, dans ce cas-là, on peut très bien ensuite faire la chasse à tous les détenteurs d'une PS3 qui sont pilotes de Formule 1 qui vont découvrir le circuit un mois avant et dire ah bah ouais mais lui il a découvert le circuit sur sa PS3 alors que Lewis Hamilton il a une Xbox et que donc il peut aussi jouer merde. Non, il a qu'une PS2 parce que Lewis il a gâché sa jeunesse, il a trop fait de voitures, il connaît rien en jeux vidéo, il a une Super NES et il a pas de PS1 quoi. Donc voilà, pour le coup, je vois pas comment je peux prendre de position inverse quoi. Donc pour le coup, je vais juste te soutenir Chelsea. Donc voilà, c'était pour ce JT et je pense que je peux te soumettre à la torture avec la question que tu aimes tant.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actuelle qui passe inaperçue. Youhou! L'actu! Où es-tu?
Alors, Shinji, cette semaine, la question, comme d'habitude, est toujours très simple. Elle a un rapport avec la F1, comme d'habitude. Mais
oui.
Va-t-on savoir à quel degré? Cette question est donc, comme je l'ai dit, très simple. De quelle manière Lorenzo Riva s'est-il fait remarquer à Monza?
C'est un Italien, je suppose, avec un nom
si.
Pareil.
Si. Et italiano, si.
Est-ce qu'il fait partie du monde de la F1?
Non.
C'est un guest?
Oui.
Le genre de guest invité par une équipe?
Pas par une équipe.
Par l'organisation.
Bah, je peux te dire, il participait à un festival dans la région de Monza. Mais ça t'aidera pas.
Est-ce que c'est un artiste?
C'est une sorte d'artiste.
quand on te demande d'artiste, il lui sort toujours cette phrase-là. Non,
mais disons que il y a la vision artiste assez classique, peintre, sculpteur, écrivain.
Oui, voilà.
Voilà. Et il y a la vision artistique où le monde de la création est plus large. Donc, il fait partie du monde plus large de la création.
D'accord. Il a fait quelque chose pendant le week-end.
Il a fait quelque chose d'assez amusant dans le paddock ce week-end, en rapport avec ce qu'il a, avec son art.
Mais ça, la chose, enfin, sur qu'est-ce qu'il fait, n'est pas quelque chose de considéré comme artistique à la base.
C'est une question, disons que c'est une question de point de vue, si tu veux, pour. C'est une forme d'art. Maintenant, il y aura toujours des gens qui diront c'est pas de l'art, il y aura toujours des gens qui diront mais oui c'est de l'art, voyons réfléchissez-en.
C'est pas un photographe par exemple.
Non, c'est pas un photographe. Quoique ça a un rapport avec la photographie.
Est-ce que c'est un réalisateur? Non.
Non.
Bah non. Qu'est-ce qu'il foutait dans le paddock? C'est quelqu'un de connu en Italie?
Molto famoso, si.
C'est méchant, ça.
Il est assez connu. Il a d'ailleurs, je crois, fêté, à l'occasion du Grand Prix de Monza, d'ailleurs, en parallèle, il a fêté, je crois, ses 50 ans de carrière.
Ah oui, quand même. Il est dans la cuisine.
Non, mais si tu peux te donner un indice.
Ouais.
En Italie, c'est pas étonnant, quoi. C'est-à-dire que c'est un... Je dirais pas que c'est un artiste typique de l'Italie, mais il y a quelques pays au monde où ces gens sont des artistes. Parce que l'Italie est un pays à l'avant-garde, disons, dans ce genre d'art.
Il est œnologue?
Non. Ah, tout de suite, il pense à l'alcool.
Ah non, mais c'est un pays de vin.
Oui, c'est pas de l'art. Quoique ça pourrait être à polémique, mais bon.
Oui. Est-ce que tu peux me citer d'autres pays?
La France, d'une certaine manière les États-Unis. D'ailleurs, la capitale mondiale de cet art, c'est Paris et Milan.
C'est la mode?
C'est la mode. Donc il est...
Couturier, enfin...
Il est
oui.
Couturier. Oui, Lorenzo Rivas, c'est un grand couturier italien qui est d'ailleurs né à Monza.
Ah bon.
Mais la question c'est qu'est-il venu faire dans le paddock vendredi dernier?
Est-ce qu'il a fait des tenues pour
Il a pas fait des tenues, mais il pourrait en faire maintenant.
Il a récupéré des éléments. Est-ce qu'il se base par exemple sur des matériaux comme le carbone par exemple pour faire des tenues? Non.
Mais qui fait des poubelles à Monza. Oh, il y a un pneu d'échappé, je vais le prendre. Je vais faire une robe avec.
Mais il était là justement. Est-ce qu'il a fait des robes ou pas du tout?
Ah, ça aurait été encore plus drôle qu'il fasse des robes.
Des robes, des tenues. Est-ce qu'il a fait des tenues pour la
maison? Il a rien fait. Il a fait une partie de son travail, mais il a pas fait de tenue.
Il y a eu un défilé?
Il y a eu un défilé, mais c'est pas ça.
Il a fait tester des tenues à des pilotes de F1?
Non. Bah non, c'est un couturier, il fait pas tester des pneus, des tenues. D'abord, il regarde le pilote de F1 et après il fait une tenue sur mesure.
Oui.
Le gros indice. Imagine, tu vas chez le couturier.
Ouais.
Tu dis bonjour, Lorenzo Riva, per favore, mi piacerebbe avere un costume. Je me rappelle plus comment on dit costume, donc
ouais.
Un costume, voilà, je voudrais avoir un costume. OK. Qu'est-ce qui se passe?
Il prend les mesures.
Il prend les mesures. Eh ben, il est venu prendre les mesures des pilotes. Dans le paddock, vendredi. Alors, il n'est pas venu prendre, enfin, il est venu symboliquement prendre les mesures. Alors, il faut savoir qu'en fait, il venait participer à un festival qui s'appelle Monza Più, qui est un festival organisé, donc, qui a commencé le 9 septembre, qui s'est terminé le 12, qui s'organise en parallèle, de Monza, du Grand Prix. C'est un festival qui est assez ancien. Et donc c'est l'occasion de dans ce festival, il y a plusieurs manifestations, c'est assez hétéroclite. Alors à l'occasion de ce festival, par exemple, on a remis le 9e prix international de la photographie Pepi Serrada. Alors apparemment de ce que j'ai pu trouver, Pepi Serrada, c'est un journaliste italien qui est décédé il y a une dizaine d'années, auquel aujourd'hui on rend hommage par l'intermédiaire d'un prix de photographie, des photos de Formule 1. Et le premier prix a été attribué cette année à l'italien Alberto Crippa pour sa photo des deux Red Bull en perdition en Turquie, une superbe photo.
Ah oui.
On a aussi, bien évidemment, des manifestations motorisées, de trial, de défilés historiques, des manifestations de drift. On a aussi un match de football. On a des concerts de jeunes talents régionaux et des concerts d'artistes plus confirmés. On a des animations pour les enfants. On a un casino. On a diverses expositions et conférences. Et on a effectivement eu cette année un défilé de mode de Lorenzo Riva. Et il se trouve que cette année le festival a pris une tournure un peu spéciale puisque tu le sais sans doute, Rome a signé un contrat de 5 ans pour organiser un Grand Prix. Monza se sent très menacé. Ils ont appelé un peu à l'aide Ferrari en disant soutenez-nous. Ferrari qui a répondu, ben non, après tout, un Grand Prix à Rome, c'est intéressant, si tu m'étonnes. Même s'ils ont pas envie que ça nuise à Monza. Et donc, pour l'occasion, les artistes italiens qui ont participé à ce festival se sont un peu mobilisés. Et Lorenzo Riva, notamment, s'est mobilisé en disant que voilà, il fallait préserver le patrimoine de Monza et donc son Grand Prix. Et donc, il est venu dans le paddock un peu, voilà, prendre les mesures de différents pilotes. Donc voilà, c'était une manière de parler un peu de cette mostra de Monza qui est assez intéressante et dont j'ai découvert l'existence en préparant justement cette rubrique.
C'était fort intéressant comme d'habitude. On va passer à la course.
Finalement, ouais, je me dis ouais, je vais faire un JT, ce sera moins long qu'un jeu. Mon cul.
Ouais, ouais. Pars, ouais. Donc on va commencer par les qualifs et Lewis Hamilton ne sera plus tout seul à avoir empêché les Red Bull de faire une saison complète.
Ferrari l'a fait.
Eh oui, Ferrari l'a fait. Fernand.
Rien que d'y repenser, tu vois. Je suis ému, là. Je revois. Continue, je dis.
Donc, début du grand week-end de Ferrari, parce que faut quand même avouer qu'ils ont été très performants ce week-end. C'était la 19e pole position, Fernando Alonso. La 204e pour Ferrari en tant que constructeur.
204e, on était à 203 depuis deux ans. On n'en pouvait plus, là.
Et la 205e en tant que motoriste. Faut chier, Toto Rosso. À une moyenne, quand même, de 254,445 km/h. Oui. Rien que pour un chiffre comme ça, on aime Monza.
Souvent, je n'aime pas le circuit de Monza. Et c'est vrai que c'est un circuit que j'affectionne pas particulièrement. Maintenant, faut reconnaître une chose. Il y a une atmosphère sur le circuit. Il y a une espèce de, c'est vrai qu'il y a une espèce de tension, hein. Les commentateurs l'ont dit. Il y a une espèce de, quand même, de chape de plomb tout du long du week-end parce que c'est un circuit très dangereux, très rapide et voilà. C'est un circuit qui a une qualité qui, un vrai circuit d'homme. Voilà.
C'est ce terme qu'on sort tout le temps. Temple de la vitesse.
Ouais, voilà.
Vitesse, oui, parce que évidemment, c'est le circuit le plus rapide. Mais cette notion de temple. Et ça a du sens, oui, c'est une ambiance.
Même s'il y a un petit peu trop de mecs torse nu.
Oui, non, mais ça, c'est l'été, c'est les Italiens. C'est
généralement des gras du bide, quand même, hein. Faut être honnête.
Écoute, hein, la F1, la bière, enfin, voilà.
mais voilà, en plus, magnifique tour de Fernando Alonso. Alors, au départ, j'ai cru, en fait, que j'étais très content de la pole, mais j'avais quand même relativisé quand on me posait la question. Je disais, voilà, oui, enfin, il a quand même bénéficié de l'aspiration de Weber, parce que c'est dans le premier tour, donc il est pas très loin de Weber. Et en fait, quand j'ai regardé le tour embarqué, non, Weber, il est très loin devant. C'est un tour qu'il fait tout seul. Il y a aucun bénéfice de l'aspiration, il y a rien. Donc, c'est vraiment un très très beau tour, voilà.
Alors, à noter, la place du con.
Alors, Luigi ou Kobayashi? À la régulière, généralement, c'est l'un des deux. Hein.
Alors, à la régulière, sans les déclassements. Oui, je suis malin, j'utilise le mot déclassement cette semaine.
Oui.
c'est Luigi. Luigi, 19e seulement, alors que Kobayashi, 13e.
Ouais.
Bon, au final, sur tout le week-end, Kobayashi, qu'on a beaucoup vu, hein, lors de la course. Il est parti des stands et il a pété sa boîte de vitesse. Comme quoi. Il y a pas que Hamilton à s'être planté au premier tour. Donc.
Oui, c'est d'ailleurs même étonnant. Je crois qu'il a abandonné avant Hamilton. Alors qu'Hamilton abandonne quand même dans la deuxième, dans la première grande courbe. Donc c'est quand même très fort.
Qui touche, si je me rappelle bien, il touche dans la première grande courbe.
Oui, il sort dans l'ESMO 1.
Ouais, je sais pas. J'avais un doute sur l'ESMO 1, l'ESMO 2, ouais.
Non, c'est l'ESMO.
Donc, ouais. Il a fait 1,5 km, 1 km, Hamilton.
Il pouvait pas tourner dans l'ESMO 1 pour aller à l'ESMO 2, c'est impossible. Tu vois l'état de la roue, c'est impossible. Et tu vois, il essaie de tourner, mais non, ça tourne pas.
Mais ce qui est magnifique, c'est que, en plus, on le voit bien en vue embarquée. T'as le pneu qui fait, enfin, t'as l'axe, enfin, voilà, il fait, quand tu vois le pneu, tu fais, bon, c'est foutu.
Voilà.
Et là, il y a une espèce de miracle, parce que c'est un miracle, le truc. La roue se repositionne et se remet dans l'axe, et lui, il continue à rouler. Et là, bon, bah, le problème, c'est qu'au virage suivant, il a tourné à droite, et bizarrement, les roues ne tournaient plus. Sinon, au niveau de la qualif, on peut noter que Timo Glock a été déclassé de 5 places pour avoir changé sa boîte.
Oui, mais qu'est-ce que c'est 5 places pour une Virgin?
Oui. Voilà. Que Petrov, là, c'était plus chiant, quand même. A été déclassé de 5 places pour avoir gêné Timo Glock.
Oui, à la sortie de...
C'est-à-dire, ils se sont plaints et tout, enfin, bon.
Mais après, c'est vrai qu'il faut aussi retenir la phrase de Virgin qui a dit, bon, en même temps, c'était pas notre meilleur tour. Ouais. Ça veut tout dire.
Donc, sinon, voilà, c'est à peu près tout sur la grille. On peut noter les Red Bull qui étaient relativement mal classés. Mais en même temps,
première fois de la saison qu'il n'y a pas une Red Bull en première ligne, je crois.
On s'attendait pas non plus grand chose des Red Bull. Enfin, on savait que ça serait pas leur circuit cette semaine.
Oui, alors en plus apparemment il y avait un problème puisque bon, tout le monde a changé de moteur à la veille de Monza vendredi soir. Ouais. Parce que bon voilà, c'est un circuit qui demande énormément de moteurs et on le sait, plus le moteur est usagé, plus il perd de puissance chevaux.
Rien que pour ça, Hamilton a un gros avantage. Oui. Il a pas usé son moteur.
c'est quelques chevaux, mais bon, ça quand même sur un circuit comme Monza où t'es beaucoup,
là,
beaucoup en pleine
puissance. C'est tellement exigeant que tu peux pas te permettre d'avoir quelques chevaux.
C'est d'ailleurs ce qu'a été obligé de faire Ferrari, d'utiliser le 8e moteur. Donc avec des succès différents. Et apparemment, du côté de Red Bull, il y a un petit problème d'exploitation du moteur de Vettel qui aurait pas eu le rendement attendu. Et il semblerait également que Renault a cherché et n'a pas trouvé d'explication à ce faible rendement du moteur de Sébastien Vettel.
À noter aussi le double choix de McLaren. Alors on savait pas trop sortir de la qualif qui aurait raison entre Hamilton qui a fait le choix d'enlever le F-duct, ce qui nous avait été annoncé d'ailleurs 2 semaines avant, et Button qui a finalement choisi de le mettre. Et d'ailleurs, finalement, ça a plutôt été un bon choix.
C'est vrai que, pour revenir un petit peu, c'est un peu technique, mais la différence entre les deux voitures, c'est que le F-duct, pour qu'il fonctionne bien, il faut que l'aileron arrière soit... généralement, l'aileron arrière est relativement épais. Sauf qu'on connaît bien l'expression à Monza, c'est le principe des lames de rasoir.
C'est-à-dire que Hamilton, n'ayant pas de F-Duck, avait une voiture, on va dire, presque réglée classiquement pour Monza.
Voilà.
C'est-à-dire, feuille de rasoir au niveau des ailerons, très très vite en vitesse, on parle de 8 km/h de plus pour la voiture d'Hamilton, mais bien évidemment, dans les virages...
Parce qu'il gagne en vitesse de pointe, il le perd en appui dans les courbes.
Là où bien évidemment, avec le F-Duck, comme c'est censé compenser, vous pouvez mettre une voiture un peu plus d'appui, donc il va tourner mieux.
Et dans les lignes droites, compense la différence de vitesse.
En ligne droite.
D'ailleurs, c'est pas pour rien si je crois ce week-end les plus fortes vitesses de pointe étaient celles d'Hamilton et celles des Virgin, Lotus et compagnie qui elles n'ont pas de F-duct, donc elles ont mis le package type Monza, donc lame de rasoir à l'arrière et donc c'est logiquement, je crois que c'est les Virgin qui avaient les meilleures vitesses de pointe.
Et tu sais que les ingénieurs McLaren ont expliqué pourquoi le F-duct s'appelait le F-duct.
Ah.
Quelle était ta théorie de cette appellation?
Ben pour moi, c'est qu'il y avait, c'était un conduit F, donc il y a un F, c'est un axe avec deux barres, et que le F-duct, il y a deux sorties d'air, il y en a une à l'arrière, et il y en a une dans le cockpit.
C'est ce que tout le monde pensait, et bien les ingénieurs, ils ont dit, pourquoi avoir utilisé la lettre F et pas une autre? Si je te dis que, à quelques centimètres près, il aurait pu s'appeler le A-duct ou le O-duct.
Ah, Vodafone, non?
Oui, ils ont expliqué que si ça s'appelait le F-duct, c'est tout bêtement parce que l'entrée d'air était au niveau du F. Alors, est-ce que c'est...
Ah, ça c'est bon, ça.
Si c'est vrai, c'est très court, c'est très drôle. Donc peut-être que voilà, il aurait pu s'appeler le O-duct ou le A-duct. Voilà, juste une question de sponsor. C'est vrai que c'est assez
bon,
drôle.
Ça. Ouais, non, c'est très bon.
C'est drôle. Je sais pas si c'était vraiment exprès pour faire rire ou si c'est peut-être la vérité.
Peut-être.
On passe à la course.
Oui, bien sûr.
On passe au top 10.
Et on remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé à ce top 10, à savoir Fav007, Iceman Air, Globen, Maël et Sato Kamikaze.
Exactement.
À savoir que, faut quand même préciser, on tient à rassurer nos auditeurs, puisque Bûcher, qui était avec nous il y a 15 jours pour le Grand Prix de Spa, n'a pas pu voir correctement dans de bonnes conditions le Grand Prix. Il l'a vu, mais des petits bouts par-ci par-là. Et donc, il n'a pas envoyé de top 10, mais il tient à nous rassurer, il est vivant.
Il est vivant.
Tout va bien.
Et tu vas être content, il n'y a pas d'ex-aequo cette semaine.
Youhou! Moi, ce qui compte, c'est qu'il y en ait un seulement devant. Les autres derrière peuvent être ex-aequo sur cette course, on a rien à foutre.
Donc, ont été nommés, mais n'ont pas été retenus. On pourra noter, donc, sur les trois votes, évidemment. Alors, il y a Petrov, que tu as mis dixième.
Oui, mais juste pour sa remontée, en fait.
Voilà. il a été cité, par Maël, en fait. Donc, oui.
Voilà.
Vous avez été que deux à citer Petrov.
Alors Maëlle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous va laisser parler l'honneur aux jeunes femmes. Elle dit belle remontée après une faute bête en qualification. Et ça, moi, c'est pour ça que j'avais mis les deux dernières places. En fait, j'ai mis les deux pilotes qui ont fait la meilleure remontée dans l'ordre du classement. Donc Ludi et Petrov. Donc voilà, c'est juste pour ça.
À noter. noter aussi que Buemi a été classé 10e par les auditeurs.
On a deux auditeurs qui l'ont placé, je crois. Iceman Air qui nous dit, qui nous l'a mis 8e, je crois, en disant superbe course au volant de la modeste Toro Rosso, il aurait vraiment mérité de marquer des points. Tandis que Sato Kamikaze nous dit, il a bien failli entrer dans les points avec sa modeste Toro Rosso, dommage pour lui. À chaque fois, on insiste bien sur le terme modeste Toro Rosso.
Bah oui. À noter aussi que j'avais mis Glock en 10e place, donc le traditionnel point de la petite équipe, quand on sait pas qui mettre en 10e place.
Bah que Sato Kamikaze et Fab007 on fait pareil.
On met aussi, voilà, sont maintenant classés. Alors tu as cité Liuzi.
Oui.
Et comme tu l'as mis, c'est comme la dernière fois, comme tu l'as mis 9e et pas 10e, et vient il récupère le petit point de la 10e place.
Ah bah je sais ce que je fais maintenant, ouais. J'ai l'habitude maintenant du classement. Non, il y a aucun push, il y a rien. Rassurez-vous.
Que Globen aussi l'a cité.
Oui, Globen qui l'a mis 10e et qui a dit c'est le premier qui me vient à l'esprit.
Oui, bon, c'est une 10e place.
Voilà, c'est les miennes.
Bon, j'ai envie de dire cette semaine la 9e place aussi.
Ah. Oui. Bah, c'est vrai que moi, personnellement, dans mon top 10, j'en avais 8, évident, et pour tout le reste,
C'est un peu le cas de tout le monde, en fait. Puisque, en 9e place, c'est celui qui faisait vibrer les tifosi il y a encore quelques années.
Ah.
C'est notre cher Choumi.
Choumacher.
Notre cher Choumi, que j'ai mis 9e. Que les auditeurs ont mis 9e aussi. Alors, c'est pareil, hein, Choumi, j'ai mis 9e parce que, voilà. Il était 9e. En fait, j'ai trouvé les 8 premiers, je me suis dit 9e, je vais mettre le 9e. Puis le 10e, je me suis dit, oh quand même, je vais pas mettre Barguello. Donc j'ai mis de l'op. Voilà.
C'est marrant qui d'ailleurs a reçu un très bon accueil du public italien.
Oh, ça m'étonne pas.
Voilà, donc bon, il y avait quelques petites inquiétudes au fait qu'il soit passé chez Mercedes, etc. Mais finalement, vu qu'Alonso a gagné, ils ont dit « Oh, bon, c'est pas grave. Hein. » Entre un Alonso qui gagne et un Schumacher qui se fait dominer par Rosberg, pour le moment,
s'il
on est
peinard. S'il te plaît, on n'est pas dans le football quand même. Hein. On a noté en foot que Lyon a gagné 1-0 contre
oui,
le
voilà.
Nous le fire.
On vous tient. Alors qu'il y a eu il y a eu une expulsion.
Oui.
Donc, ils ont joué à 10. Il y a eu pas mal d'occasions, d'ailleurs, on peut vous le dire. Mais bon, on en parlera pendant le SAV du foot. Schumacher que donc 4 auditeurs ont cité.
Et quand même. Hein.
Fab007 qui nous le place en 9e position en disant un week-end correct, sans plus. Là aussi, il semblait que la voiture pouvait être mieux utilisée. Enfin, là, il dit là aussi parce qu'à un autre moment donné, il dit la voiture pourrait être mieux utilisée. Mais comme il répète, il dit là aussi. On a Globen aussi qui nous fait un petit commentaire sympathique en mettant également Schumacher 9e. Alors je vais tenter de faire une imitation, je suis désolé. Monaco, Monza, Imola ou bien Spa. C'est toujours le même calvaire malheureusement. Et vivement l'année prochaine, si bien sûr il est encore là. Ça c'est moi qui le rajoute.
Mais oui, il sera là.
Mais je me prépare moi psychologiquement à la retraite encore. Et donc ensuite nous avons les deux extrêmes. Nous avons d'un côté Maël qui l'a mis 8e. Waouh. Et qui dit marque des points mais je ne l'ai pas vu en course.
Oui, c'est vrai.
Et donc, le plus sévère des auditeurs, qu'il ait quand même mis dans son classement, c'est Iceman Air qui nous dit très bon départ et aussi parce qu'il faut un 10e. C'est souvent le cas, généralement. Oui. Voilà. Donc, Schumacher qui se classe 9e. Moi, je l'ai pas mis, donc.
Toi, tu l'as pas mis, donc.
Je dirais rien.
Passons à la 8e place. Je l'ai mis 8e. Tu l'as mis 8e. Les auditeurs l'ont mis 8e. Et donc, normalement, il est 8e. C'est Kubica.
Ah, Roberto.
J'ai pas grand chose à dire sur Kubica. Qu'ont dit les auditeurs?
Les auditeurs sont, c'est assez partagé. La meilleure note a été attribuée par Globen, qui l'a positionné en 5e place dans son classement et qui nous dit qui a dit course à la Rosberg. Voilà, c'est vrai que c'est un peu ce qui ressort en premier quand on pense à Kubica. En tout cas cette saison. On en a deux qui nous ont mis Kubica en 7e position, c'est Fab007 et Maël. Fab qui nous dit course discrète mais solide, tandis que Maël nous dit marque des points, même s'il est en dessous de son niveau de Spa-Francorchamps, mais même si les circuits sont diamétralement différents. Sato Kamikaze nous le met en 8e place. On ne l'a pas vu de la course, mais il fallait un 8e. C'est dire quand même que la course...
Ça se tient.
Et enfin, Iceman Air, une nouvelle fois, qui fut le plus sévère en le mettant en 9e place. Course très en retrait et totalement anonyme pour Renault, mais il est encore dans les points.
Oui, on passe à la 7e place.
Oui, avec plaisir.
À la 7e place, j'ai envie de dire, nous avons Marco.
Si, Marco. Mais lequel?
Bah, en même temps, des marques, il n'y en a pas 40 000 en F1.
Ah, d'accord.
Mais oui.
Ah, Marc Weber, alors.
Marc Weber, donc, que j'ai mis 7e, que tu as mis 7e, et les auditeurs l'ont mis 6e. Course un peu mitigée. Bah, en même temps, les Red Bull n'étaient pas non plus super attendus.
Ouais, mais j'ai quand même envie de dire course d'épicier. On a souvent fait reproche l'an dernier à Button d'avoir été un peu épicier. Et là, je trouve que sur ce coup-là, notamment face à la résistance de Hülkenberg, je pense quand même que Hülkenberg était un bouchon qui pouvait sauter. Mais je pense qu'il a été très prudent et peut-être même... Pourquoi pas un peu trop. Maintenant, quand on connaît le comportement parfois qu'a Weber dans le peloton, c'est-à-dire qu'il fait un petit peu n'importe quoi, on se rappelle de Melbourne, ça avait été catastrophique à Melbourne, le Grand Prix d'Europe. Voilà, vaut peut-être mieux éviter qu'il soit trop.
Non mais c'est même drôle parce que certains l'ont fait remarquer qu'un manche, c'est lui quand un moment il double une voiture, il se plaint justement.
Mais je crois qu'il s'est plaint au sujet du Hülkenberg.
Hülkenberg. Quand on sait l'acharné que lui-même peut être, oui, c'est
ben oui,
assez
voilà.
drôle. Bon, il récupère des points. En même temps, c'est peut-être pas l'année où il faut faire l'épicier.
S'il est un peu plus actif, il finit cinquième, peut-être même quatrième, puisque ça s'est vraiment joué à la seconde, la sortie de ravitaillement de Vettel sur Rosberg. Donc peut-être qu'il aurait pu effectivement profiter de la situation un peu mieux que ça.
Les auditeurs, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Weber?
Alors, les auditeurs, la note la plus avantageuse pour Weber est attribuée par Vettel. Vettel, il a mis un 2 à Weber. Il l'a mis deuxième, voilà. La meilleure position pour Weber, c'est dans le classement de Maël, qui nous l'a placé cinquième. Et elle nous dit qu'il sauve quelques points pour le championnat et limite la casse. C'est vrai qu'on l'a dit, c'est une belle opération mathématique quand même pour lui. Un cran en dessous, cependant, du point de vue de Globen, qui l'a mis en sixième. Un peu décevant, mais il prend chanceusement quand même la place de leader du championnat, à défaut bien évidemment d'avoir celle de Red Bull. Nous avons une nouvelle fois deux personnes qui nous l'ont placé septième, Sato Kamikaze et Iceman Air. Sato Kamikaze qui nous dit joli déplacement sur Schumacher et bonne course pour sa RB6. Voilà, on souligne la RB6 plus le pilote, je sais pas. Et on a Iceman Air qui nous dit dommage qu'il ait encore raté son départ, ce qui arrive très très souvent chez Herbert. C'est vrai. Car il avait une grosse occasion de faire le trou, néanmoins il a encore intelligemment limité la casse. Et enfin on a Fab007 qui est le plus sévère, qui nous le met en 8e position. Il y avait certainement mieux à faire, course peu convaincante. C'est vrai que malheureusement, moi en tout cas j'avais dit sur le Grand Prix de Belgique que je n'avais pas vu Weber comme un champion mais davantage Hamilton. Et sur l'ensemble, même si Hamilton a fait une boulette, ça n'a pas changé mon opinion que je pense Hamilton un peu plus fort potentiellement sur cette fin de saison.
On peut difficilement juger Hamilton sur cette course.
Voilà.
De toute façon.
Donc voilà.
Passe à la sixième place. J'ai envie de dire c'est presque logique qu'il soit devant Weber, parce qu'il a quasiment tout le temps été devant Weber. C'est Nico Hülkenberg.
Oui. Hein,
donc qui est sixième. Que j'ai mis sixième comme les auditeurs. Et en fait c'est toi Dino. Dino tu l'as mis. Quatrième.
J'ai adoré sa course, au petit Hülkenberg.
Attends, tu nous as toujours dit que tu aimais les courses de défense, donc ça paraît logique.
Non. Alors, déjà ça, et puis voilà. Enfin, même si le niveau s'est un peu rééquilibré parce que Williams marche assez bien et même très bien vu qu'ils sont bons en ce moment sur tous les circuits. En tout cas, ils sont régulièrement dans le top 10. Ça s'est rééquilibré parce que il y a aussi la Red Bull qui était moins bonne. Mais voilà, il a défendu. Il a certes plusieurs fois coupé, court-circuité les chicanes, trois fois je crois. Maintenant, faut pas oublier qu'on est à Monza, que à Monza c'est aussi un très gros circuit de freinage, que les chicanes elles sont d'année en année réaménagées parce que les pilotes les court-circuitent, et que donc voilà, bon, est-ce que c'est vraiment très grave? Est-ce qu'il en tire un gain? Mais il a fait tellement une bonne course, une telle résistance, un peu à l'image de ce qu'avait fait Petrov en Malaisie sur Hamilton, que vraiment j'avais envie de soutenir parce que voilà, honnêtement il est en pleine phase ascendante Hülkenberg.
Ah oui.
Et
oui.
On sait que chez Williams le contrat de Barrichello est déjà signé et que Williams se demande encore ce qu'ils vont faire de Hülkenberg. Il faut surtout pas qu'il lâche.
Faut qu'il le garde.
Parce qu'il a vraiment énormément appris de ses bêtises du début de saison et que c'est franchement fantastique ce qu'il fait en ce moment.
S'il n'y avait pas eu cette question de chicane coupée, je pense qu'il aurait pu gagner facilement une place au classement du SAV. Il a quand même coupé trois fois. Et
bon, oui, voilà.
Il y a quand même des règles. Je veux dire, c'est vrai que bon, ça veut pas forcément dire que Weber allait le dépasser à chaque fois au moment où il a coupé, hein, bien évidemment. Mais quand même, il y a des règles. Si on met des chicanes, c'est pas pour rien. Donc voilà.
L'année dernière, en GP2, c'était un gros problème, les chicanes. Et en GP2, les pilotes avaient l'habitude de régulièrement couper les chicanes, etc. Et le GP2 avait dû mettre en place une règle qui mettait un drive-through, je crois, quand tu coupais deux ou trois fois une chicane. Parce que c'était vraiment devenu problématique l'an dernier.
Mais il y a une règle. Hein.
Moi personnellement,
peut-être que les commissaires, enfin, c'est vrai qu'il est débutant, donc peut-être été jugé comme atténuant entre guillemets.
Le plus gentil envers Hülkenberg, en dehors de moi, c'est Iceman Air qui l'a mis cinquième. C'est vrai qu'il a pas mal abusé sur les chicanes, mais mis à part cela, il a fait un super Grand Prix et tenait le rythme de Rosberg et Kubica et a surclassé Barrichello. On a ensuite Sato Kamikaze et Fab007 qui l'ont mis chacun sixième. Sato Kamikaze nous dit très jolie course de sa part avec sa petite Williams. Il commence à monter en grade et ça fait plaisir à voir. Tandis que Fab, lui, nous dit une bien belle course, très prometteuse, tout comme la Williams d'ailleurs. En revanche, je le soupçonne d'avoir parcouru quelques mètres de moins que tous les autres avec ses nombreux courts-circuitages.
Et Williams qui se rapproche de Force India. Hein.
Oui. Globen l'a mis septième. Malgré de petites erreurs, le champion GP2 s'en est très bien sorti avec une Williams. Tandis que Maël a été la plus sévère en disant bonne course malgré ses passages par les chicanes. Mm. Donc on voit quand même dans la décision, tout le monde souligne la belle course de Hülkenberg, oui. Mais un peu gâchée par ce problème de chicane.
Voilà. Passe à la cinquième place. Avec encore un Allemand. Mais il y en a partout des Allemands. Donc
maintenant ils vont être sept, hein. Faut s'habituer.
Ah oui, c'est vrai.
Non, voilà.
Ouf. Et donc, c'est l'Allemand le plus invisible des Allemands. C'est donc forcément Nico Rosberg.
Oui, l'homme invisible. On devrait lui offrir des bandelettes, tu sais. L'homme invisible, il a des bandelettes pour qu'on puisse le voir. On devrait en offrir, c'est pour mettre plein de bandelettes autour de sa Mercedes. En plus, ça va bien la Mercedes des bandelettes parce que c'est un petit peu un animal blessé. Donc,
que j'ai mis cinquième, que les auditeurs ont mis cinquième et que tu as mis sixième.
Ouais.
Donc, c'est devenu une habitude, Rosberg, c'est-à-dire qu'on sait, on ne le voit pas, mais faut pas qu'on oublie qu'il fait quand même des courses pas trop mauvaises.
Oui. Mais disons
donc, quand on fait les classements, on regarde bien le classement pour voir où est Rosberg, parce que sinon,
donc, on met. Par exemple, si tu mettais Rosberg dans un jeu de Cluedo,
ouais.
Tu penserais jamais que c'est le meurtrier.
Non.
Et pourtant, t'aurais une chance sur deux d'apprendre à la fin que c'est lui qui a tué avec le couteau dans la chambre.
Ouais, carrément.
Et pas le colonel Moutarde, comme tout le monde le pense. Voilà. C'est le colonel Moutarde de la F1, Rosberg.
Qu'on dit, tiens, les auditeurs. Est-ce qu'ils sont capables de dire des choses sur Rosberg, l'homme dont oui. On peut jamais vraiment rien dire?
Bah, on a beaucoup d'expressions qui reviennent, des comme d'hab, des une course à la Rosberg, de simples marques des points. Des expressions de lourd de sens. Et c'est pour ça que tu vois, à la limite, j'ai même pas envie d'en rajouter. Non, on peut quand même dire que Iceman Air l'a mis quatrième. Certes, on n'a pas vu, mais il a fait un départ canon et se classe à une superbe cinquième place, compte tenu des performances de la Mercedes. Un peu plus sévère, Fab007 et Sato Kamikaze l'ont mis cinquième. J'ai bien dit un peu plus sévère. Sato Kamikaze nous dit, comme d'habitude, on n'a pas vu de la course, mais il nous chie un joli top 5. Bref, bonne course de sa part. Alors que Fab, qui l'a aussi mis cinquième, nous dit, très très bonne course avec la voiture dont il dispose. Sans les pneus tendres en granit, il aurait pu viser la quatrième place. C'est vrai qu'il perd un peu la quatrième place sur le pari stratégique de Vettel.
Ouais.
On a Maël qui nous le place sixième, marque des points, mais je ne l'ai pas spécialement vu lors de la course. Là aussi, c'est une expression de langage qu'on retrouve régulièrement. Et enfin, Globen qui nous dit une course à la Rosberg, plus décevante que d'habitude. Voilà. Ça veut dire qu'il était plus transparent que d'habitude du point de vue de Globen. Parce que c'est quand même une bonne course, mais il est plus transparent. C'est-à-dire que
en même temps, on a vu que les trois premiers quasiment toute la course.
Oui, voilà. Non, mais disons que si vous cherchez à prouver à vos amis que la lessive peut laver plus blanc que blanc, vous leur dites, regardez, Rosberg, il peut être plus invisible qu'invisible.
Invisible. Ah, mais je crois qu'il faut surtout en parler au réalisateur des courses, quoi. Il doit pas l'aimer, je sais pas. Je suis sûr qu'il fait des choses très intéressantes en course, mais on le voit pas. On passe à la quatrième place.
Oh.
On passe par l'homme qui a quelque chose en vert dans sa voiture, mais qu'on sait pas parce que c'est pas le moteur, parce que Renault, il a dit que c'était pas le moteur. Mais attention, il a des pneus, mais alors en béton.
Oui.
Il a tenu quand même 300 bornes sur Monza. Hein, je veux dire, bon d'accord, la piste de Monza, c'est pas une piste, enfin, c'est pas la plus abrasive, comme on dit. saison, mais c'est quand même une piste où on va à 200 de moyenne, je veux dire, ça, mais, ça use les pneus.
Ce qui était très drôle, c'est que vers la mi-course, avant même que les leaders ne ravitaillent, enfin ne changent de pneus, à la mi-course, il y avait déjà tout le monde qui se disait, oui bon alors vous allez voir, là on va arriver au moment où la prudence de Button avec ses pneus va commencer à faire effet, où vous allez voir Alonso qui attaque plus, et en fait vous avez Vettel derrière, qui a fait 20 tours de plus, voilà, c'est tout. Avec des pneus, quand tu regardais les pneus de Vettel à la fin, ils étaient pas moches.
Oui. Donc Vettel, que j'ai mis quatrième comme les auditeurs et que tu as mis cinquième. Et c'est normal, t'avais mis Hülkenberg devant.
Voilà.
Donc c'est
d'ailleurs, j'étais étonné de voir Vettel si haut. Quoi. Je suis tellement peu habitué ces derniers temps à voir Vettel plutôt bien que je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, oh, mets-le que cinquième, c'est déjà pas mal cinquième.
Déjà, il a cassé, on va dire, globalement, sa série de mauvaises courses. Parce que, enfin, même si on a l'habitude de le voir mieux et plus haut, là, par rapport à ce qu'on s'attendait des Red Bull, il fait quand même un truc pas mal. Et puis il y a eu cette étrangeté, hein, quand Weber l'a dépassé.
Oui.
Alors déjà hein, quand on voit Weber et Vettel être loin, pas très loin l'un de l'autre, on redoute toujours quelque chose.
Moi je me suis mis en mode Turquie, tu vois.
Chez Red Bull, ils ont trouvé le truc anti-consigne, c'est le truc qui marche pas sur la voiture mais qui ne marche pas qu'à un moment de la course.
Voilà.
C'est-à-dire que la voiture elle marche comme une horloge avant, elle marche comme une horloge après, mais bizarrement quand Weber double Vettel, Vettel il a un souci sur sa voiture. Je tiens à préciser que l'électronique de la voiture est commune à toutes les voitures. Mmh. Hein. Donc il n'y a pas de télécommande dans la poche de Christian Horner pour baisser le régime de la voiture de Vettel.
Mais c'est vrai que bon, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard si on a reçu justement à ce propos une contribution audio d'un auditeur pour nous parler justement de ce passage. Qui pourrait prêter à suspicion.
Oui.
Mais faut quand même revenir sur la version officielle qui est proposée. La version officielle, on a d'abord pensé que c'était le moteur et Red Bull a déclaré hier que c'était sans doute les freins et le même problème qu'Hülkenberg, on sait très bien que c'est un circuit qui est très très rapide mais où il y a facilement deux gros freinages.
Tu es en train de me dire qu'il a eu des problèmes de freins en ligne droite ?
Non mais avant. Et alors il y a peut-être eu, comme souvent on a sous la pluie, on a les freins qui se glacent. Et il faut attendre bah, des fois faut faire des gros freinages quand il pleut souvent avec le choc thermique, ça voilà les freins se glacent et fonctionnent moins bien. Peut-être qu'effectivement à ce moment-là il y a eu un problème sur les freins que il a ralenti ou il a eu un problème. Mais c'est vrai qu'en tout cas.
Ce qui est drôle c'est que après quand Weber est passé, il a gueulé à cette radio.
Oui non voilà.
Oui j'ai eu un problème sur ma voiture.
donc voilà mais après c'est vrai que avec les décisions qui ont été prises récemment et toujours le flou parce que malgré tout tout le monde dit voilà les consignes sont autorisées non il reste malgré tout une énorme suspicion sur chaque cas et oui. Malheureusement c'est à dire que ce genre de situation ça se trouve par le passé on aurait été aussi soupçonneux et là le fait que il y a eu le cas Ferrari et c'est là où le cas Ferrari finalement a beaucoup choqué les gens je pense que c'est pas tant on l'avait déjà dit c'est pas tant sur le fait que Ferrari ait donné des consignes c'est sur le fait que Ferrari ait brisé l'illusion qu'il n'y avait plus de consignes. Et donc maintenant dès qu'il se passe un truc suspicieux on se dit ça se trouve c'est une consigne c'est une résultante moi je vais quand même donner le bénéfice du doute à Red Bull mais c'est vrai que sur le moment, même si au final ça se concrétise pas, sur le moment, c'est quand même ça tombe bien quoi. C'est quand même
ouais.
Une bonne opportunité quand même.
Sinon, donc on a parlé de cette stratégie audacieuse. À un moment, on se demandait même s'il allait pas passer dans les stands, en fait, passer de la ligne.
On l'avait dit, je crois d'ailleurs à propos de Kobayashi pour le Grand Prix d'Europe, et je crois qu'un de nos auditeurs, c'est Globen qui l'a mis deuxième. Et qui nous dit, comme Alonso, il s'est démené dixième par dixième, je me suis même demandé s'il ne pouvait pas franchir la ligne dans les stands.
Ah oui.
Voilà.
Après, il y aurait eu interprétation du règlement. Est-ce que savoir quand on change les pneus, est-ce que ça veut dire qu'il faut rouler avec, ou est-ce que le simple fait de les changer...
Théoriquement, c'est juste les changer et c'est faire remettre, quoi. Tu peux pas... Ouais. Surtout, faut noter, c'est qu'à Monza, la ligne d'arrivée, elle est quand même au tout début de la pit lane.
Oui.
Donc je pense qu'en fait, s'il rentrait vraiment dans le dernier tour pour changer ses pneus, il aurait dépassé la ligne avant même d'atteindre le premier pit box. Donc je pense qu'ils ont fait un tour avant, mais que finalement c'était pour eux c'était le dernier tour quoi.
Et donc des pneus toujours aussi friables hein, chez Bridgestone. Qu'ont dit les auditeurs sur Vettel?
Alors, on a déjà parlé de Globen, qui celui qui l'a le mieux placé. Sato Kamikaze, lui, l'a placé sur le podium en troisième position. Une bonne stratégie à la Kobayashi. Oui, enfin, Kobayashi, il n'a pas inventé ça non plus. Hein. Il s'en sort bien sur un circuit où la RB6 n'est pas censée être à l'aise, ce qui lui permet de garder quelques espoirs pour le titre. Ensuite, Lomi 4e, Fab 007 ainsi que Maël. Fab qui nous dit course intéressante et surtout excellente gestion de sa part après son petit incident. Tandis que Maël nous dit bonne stratégie qui lui permet de sauver sa 4e place. Donc c'est encore une fois la stratégie qui revient. Iceman Air a été le plus sévère avec une 6e place. Course sage pour une fois et bonne stratégie qui lui permet de compenser son petit souci technique. Voilà, donc à chaque fois, on souligne bien le petit souci technique, bien compensé par la stratégie, et l'application aussi de la stratégie par Vettel.
C'est tout pour Vettel ?
Oui, bah oui.
On va passer au podium.
À part que je t'aime, Sébastien. Toi aussi, oui, tu gagneras un jour à mon... Ah bah non, tu l'as déjà fait, je suis con.
Tu l'as déjà fait.
Mais moi, pour moi,
sur, un moteur... Il l'a gagné même sur un moteur Ferrari.
Oui, voilà, pour moi, il a déjà gagné en Ferrari à Monza, c'est bon, c'est fait.
Et bien d'ailleurs, puisqu'on parle de Ferrari, en troisième place...
Alonso.
Non,
oui, c'est l'autre. Il y a deux, trois cons qui ont mis Massa premier, mais bon.
C'est donc Felipe Massa que nous avons tous les trois mis troisième.
Bah, du côté des auditeurs, tout le monde a mis troisième, sauf Sato Kamikaze qui l'a mis quatrième.
D'accord,
c'est un mini grand chelem, et c'est presque un grand chelem.
C'est un presque grand chelem de la troisième place.
Voilà.
Donc, très bonne course de Massa, faut le dire, parce qu'il a quand même été dans le rythme des deux premiers.
Oui, très très beau départ. J'ai peut-être même trouvé... Alors, j'ai l'impression que Massa a réglé ses comptes avec Alonso et avec Ferrari ce week-end. D'abord sur le départ, et ensuite sur le podium.
Bah, déjà, je veux dire, quand ils sont arrivés, qu'ils sont sortis de la voiture, je me rappelle l'an dernier, oui, non, mais Massa et Raikkonen, ouais, ils sont collègues, voilà. Là, c'est beau, on a bien vu, ils vont être que collègues.
Oui.
Parce que franchement, c'était pas genre McLaren, tu vois, genre on tombe dans les bras et tout. Non, c'est ouais, bravo et tout. C'était poli.
Mais je pense, honnêtement, je pense que déjà le départ avec... Moi j'ai trouvé que Massa avait été... Bon, après c'est vrai que bon, je me suis déjà calé dans la tête que Massa était numéro 2, ça fait un bail, et que voilà, il doit se conformer à son statut, en tout cas temporaire, de numéro 2. Et j'ai trouvé qu'il avait peut-être été un petit peu loin, il avait peut-être pris un petit peu trop de risques à attaquer Alonso aussi vivement, sachant que pour Alonso, c'est les dernières chances de Ferrari. Mais bon, moi, personnellement, j'ai apprécié, j'ai retrouvé un Massa plus mordant, et ça me manquait un petit peu depuis le début de saison. Mais moi, surtout, ce qui m'a tapé dans l'œil avec Massa, c'est le podium. Il s'est alors qu'il finit troisième, il s'est approprié le podium. Il s'est approprié quasiment la victoire où il allait vers le public en tendant la main. Peut-être qu'il a réglé, il a envoyé un gros message hier. Maintenant, faut voir si sur la piste ça va se concrétiser la saison prochaine.
C'est vrai que là, en plus, il a bénéficié d'une situation très positive pour Ferrari quand même. Ils étaient très très fortes les Ferrari ce week-end.
Oui.
Ah, visiblement, ils ont modifié un peu le F-duct et tout.
Ils ont trouvé apparemment le compromis. Voilà, ils ont trouvé compromis pour réduire l'influence négative du F-duct à Monza, tout en gardant une partie de l'influence positive qu'a généralement le F-duct. Donc ils ont trouvé un bon compromis, ce qui les a évité, eux, d'aller chercher de devoir mettre les œufs dans deux paniers différents.
Il a été le seul dans le rythme, enfin ils ont été tous les trois en fait, les trois premiers, vraiment dans un rythme que, enfin le quatrième, enfin on n'a jamais vu le quatrième,
oui.
Faut bien le dire.
Ben, c'était Rosberg le quatrième, c'est normal qu'on ne voyait pas.
On passe à la suite, dans ce cas, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils ont dit de Massa?
J'adore le rattrapage de Shinji. Faut vous dire, sur des temps, depuis le début, Shinji, il s'en fout des auditeurs. C'est moi qui dis, non, refais-le, faut que t'en prennes. Mais...
J'ai pas la feuille cette semaine, donc j'y pense pas.
Donc, les auditeurs. Donc, on l'a dit, Sato Kamikaze, il l'a placé quatrième. C'est d'ailleurs le seul à foutre la merde, quoi, pour inviter un grand flemme. Il dit, Massa était le seul à avoir réussi à rester dans le sillage d'Alonso et Button. Ce que tu viens juste de dire, hein, Shinji, voilà. Il a fait tampon avec le... Enfin, même pas tampon, quoi.
Bah non.
On a les autres, donc, l'ont mis troisième. On a Iceman Air qui nous dit toujours dans le même rythme qu'Alonso. Il a pour une fois montré qu'il était capable de suivre son chef de file et complète un très beau podium. Globen nous dit bonne course, toujours au contact de Button avec un départ couillu. Tandis que Maël nous dit belle course qui permet à Ferrari d'engranger des points face aux autres teams. C'est vrai que c'est aussi une belle opération au championnat constructeur, même si Ferrari n'a plus aucune chance théoriquement. Et enfin, on a Fab 005 qui nous dit longtemps dans le rythme, il a été plus effacé dans la deuxième partie de course. Et j'ai envie de te répondre, Fab, c'est normal. C'est toujours dans la deuxième partie de course que Felipe Massa s'efface. Donc voilà pour les commentaires des auditeurs.
Et donc, à la deuxième place, celui qui se serait bien vu sur la plus haute marche du podium, s'il y avait pas eu quand même ces trois tours exceptionnels d'Alonso, parce que, bon, on va y revenir, mais ça c'est quasiment joué sur trois tours, c'est Button, hein. Mais faut dire que les McLaren, franchement, non, il fait l'idiot, c'est pour ça que je rigole. C'était quand même une belle course, enfin, c'était une course qui était pas promise, mais on savait que les McLaren seraient très fortes, elles l'ont été, mais il a manqué ce petit surplus de stratégie.
Il a manqué Alonso, c'est tout.
Voilà. Mais déjà, il y a ce très très bon départ.
Ouais, bah, ce bon départ de Button et ce mauvais de...
Ouais,
Mais c'est bizarre, hein, cette année, les mecs qui sont en pôle, ils ont du mal à partir.
Oui, c'est... Et il a tendance même à partir trop tôt, n'oublie pas.
Oui, c'est vrai. Mais il était pas en pôle, c'est injuste avec lui.
Non, bon, bonne course pour Button, c'est dommage. Par contre, il se relance au championnat.
Ben finalement, c'est une bonne opération pour lui. Et il l'avait dit avant le, il s'était un petit peu mis en colère contre la presse, notamment, en disant, vous arrêtez pas de dire que le championnat, il va jouer entre Hamilton et Weber. Et non, on est encore là, il reste 5 grands prix, on peut encore faire quelque chose. Et c'est vrai que ça a été le scénario qui s'est passé ce week-end. C'est-à-dire que finalement, ceux qui avaient perdu à Monza ont gagné.
Oui.
Enfin, ceux qui ont perdu à Spa ont gagné à Monza et ceux qui ont gagné à Spa ont perdu à Monza. Donc voilà, Button fait une course intelligente et il a su finalement se contenter de la deuxième place qui l'arrange tout aussi. Certes, il prend moins de points, il se sort, je crois à une dizaine, bah, je crois à 10 points d'Hamilton s'il avait gagné. Là, il est à 17 points, mais bon, il était déjà à 30 et quelques points, donc ça reste malgré tout une très très bonne opération pour lui.
Alors, qu'ont dit les auditeurs de Button?
Alors, les auditeurs de Button. Alors, on a pas de consensus hein, sur Button.
Ah.
Il y en a qui l'ont mis deuxième.
Ouais.
Il y a des fous qui l'ont mis premier.
Ah, ça se tient.
Non, de mon point de vue, c'est des fous, Shinji. Ce sont des gens qui n'ont plus toute leur tête. La preuve, on en a reçu un dans l'émission la semaine dernière, c'est-à-dire. Et on a Globen qui nous l'a mis quatrième en disant, malgré un bon départ, je l'ai quand même trouvé un ton en dessous des Ferrari.
Quand même, il était meilleur que Massa.
Oui, enfin, il a quand même été pendant une grande partie de la course devant les Ferrari, donc pour quelqu'un qui était un ton en dessous, sur un circuit où il est facile de doubler, mais il y a des opportunités pour doubler et pas n'importe lesquelles. Ouais, moi, honnêtement, je trouve que c'était kiff-kiff. Et je pense vraiment que la différence s'est faite à la pression. On le sait, Alonso est un chasseur hors pair. Il a mis une pression du feu de Dieu sur Button. Button y a semblé quasiment intouchable, sauf que finalement, on oublie peut-être que la pression qui pèse sur un pilote, elle pèse aussi sur son écurie. Et je pense que tout le harcèlement qu'a fait Alonso sur Button, notamment au premier virage, il n'a pas eu un effet sur Button, mais il a eu un effet sur McLaren, sur les ingénieurs, qui se sont dit, on se fait un bon ravitaillement pour le sortir, etc. Donc peut-être qu'ils ont, ils ont trop voulu bien faire, il y a peut-être eu quelques petits gestes qui ont été approximatifs, ils ont perdu du temps. À cela s'ajoute le fait que Alonso est rentré un tour après, donc il a pu améliorer, et c'est comme ça qu'il est repassé devant. Et je pense que le travail de sable d'Alonso, il n'a pas fonctionné sur Button, mais je pense qu'il a peut-être un peu fonctionné sur McLaren, et en tout cas sur les mécanos.
Button qui n'a pas roulé à la Button, enfin on pouvait s'attendre peut-être à ce qu'il économise plus ses pneus que ça, et finalement, tu l'as dit, Alonso, il
a même rattrapé après. Quand tu vois la longévité des pneus...
Oui, oui. Et justement, il aurait peut-être pu ravitailler un peu plus tard. Ouais. Pour une fois, ça n'a pas marché.
Donc sinon, dans les commentaires des auditeurs, on a Sato Kamikaze qui l'a mis deuxième, donc comme dans le classement du SAV, pour son bon départ et sa jolie résistance face à Alonso, pas une seule erreur. Maël qui l'a mis deuxième et qui souligne encore une fois la belle lutte avec Alonso. Et enfin, les deux Ulu Berlu, c'est les deux fous, quoi, les... qui ont mis Button premier, mais que ça se comprend aussi. Même si je sais que Fab, je balance ce que me dit Fab en off, Fab m'a dit que il serait content que ce soit quand même Alonso et que ce serait mérité que ce soit Alonso qui soit en tête du SAV. Tu peux être heureux, Fab. Donc Fab qui avait mis donc Button en premier en disant tout simplement parce qu'il est celui qui est le moins attendu et qu'il a été très bon tout au long du week-end, il perd la course au stand. Et Iceman Air qui le met également premier, il a fait un super week-end et méritait vraiment de gagner. Son départ était excellent, il n'a jamais cédé sous la pression d'Alonso et a beaucoup mieux joué que Hamilton en conservant le F-Duct.
C'est pas ce qu'aurait pu donner la course d'Hamilton.
Ouais, je pense honnêtement qu'Hamilton avait des atouts. Que malheureusement ça n'a pas payé en qualification parce que la voiture étant plus délicate à piloter était plus susceptible de faire des erreurs, donc il en a fait quelques-unes, il l'a reconnu lui-même, et en course bah, il n'est pas allé suffisamment loin, mais déjà ce qu'il avait réussi à faire comme progrès en remontant à côté de Massa, c'était pas mal, donc ça aurait peut-être été pas mal non plus en course.
On arrive au vainqueur du Grand Prix.
Mais qui c'est la petite fenêtre?
C'est le vainqueur du classement, donc Alonso qui fait le petit chelem hein, puisque moi, toi et les auditeurs l'ont mis premier, mais pas le grand, parce que ouais, certains ont Button premier.
De taré, là. Donc, mais j'aime bien quand même Max Manier et Fab, mais quand même, à un moment donné, faut réfléchir, quoi.
Voilà. Alonso, qui se plante.
Vous voulez pas nous forcer à faire des consignes, votez Alonso, quoi, c'est tout.
Donc, Alonso qui se plante au départ, tu l'as dit, qui maintient
un départ moyen. C'est pas un mauvais départ, mais c'est un départ moyen.
Moyen. Qui reste quand même dans le siège de Button, et qui réussit à faire, cet enchaînement, c'est-à-dire, tour avant et tour après l'arrêt, plus le temps d'arrêt au stand qui est excellent. À noter qu'Alonso fait le hat-trick quand même.
Yes.
Je crois que c'est le sixième hat-trick de Ferrari à Monza, quand même. Alors, qu'en disent les auditeurs d'Alonso?
Oh, que des louanges, je crois, à part de Zulu Berlu.
Ils l'ont mis deuxième quand même.
Oui, bah, quand même, tu vois. C'est quoi ce quand même? Donc nous avons Sato Kamikaze qui a dit « Ça me dégoûte de le mettre à cette place tellement je le hais. » Mais bon, il faut dire, il a mérité sa victoire. Fab007 qui l'a mis donc deuxième nous dit « Excellent week-end avec une voiture au point et un moteur neuf. Il se relance, ça promet pour le reste de la saison. » Iceman Air qui nous le met deuxième. « Très belle voiture devant les Tifosi qui lui permet surtout de se relancer pleinement dans la course. » Au titre, après l'énorme faute d'Hamilton et la relative contre-performance des Red Bull. Globen nous dit une course vraiment fantastique, il s'est arraché pour s'imposer de 10 cm devant Button. Mention spéciale au mécano, c'est tout à fait vrai. Et enfin Maël qui nous dit week-end parfait, il se relance pour le titre. Voilà, c'est un peu la conclusion. On sait qu'Alonso s'est fixé l'objectif de gagner les deux prochains Grands Prix. Il a déjà gagné hein, par le passé.
on sait ce qu'il reste à faire pour Massa.
Mais voilà. Un petit Brésilien à Singapour avec un Espagnol, ça donne des idées. Sur Alonso, il y a pas. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que sa course, elle parle d'elle-même.
Oui. Ah oui.
On n'a jamais senti un moment de panique chez Alonso qui, après même moment donné, quand il a vu que le harcèlement fonctionnait pas, il a pris une seconde ou deux et puis s'est laissé le temps de revenir. Donc, il a très bien maîtrisé sa course. Il a compté sur son équipe avec une super équipe. Il a mis la pression. Il a fait le boulot. Voilà, moi, c'est le genre de victoire que j'adore. Surtout quand elle est rouge.
Oui. Ah, puis quel podium, quand même.
Ouais.
Puis en plus, c'est génial à Monza, parce que le podium est vraiment à cheval. Enfin, il est au-dessus de la ligne des stands, un peu à cheval, un peu style Le Mans, tu vois, décalé, comme ça, bah, vraiment.
C'est tout à fait ça, une
pour passe être, en face du public, ouais.
Et, oui, puis, Alonso lui-même l'a dit, pour lui, cette victoire à Monza, c'était, sans doute la victoire la plus forte en émotion avec sa victoire à Barcelone en 2005, je crois. Voilà, il a vu ce que c'était. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a un très bon dessin sur le site Next Gen Auto où on montre un Alonso qui remercie tout le monde, il est content parce qu'il a gagné le titre. Et les mecs derrière qui disent ouais mais c'est bon, il a gagné qu'à Monza. Et l'autre répond oui mais il a gagné à Monza et c'est un pilote Ferrari. Et c'est vrai que c'est ça quoi, c'est Ferrari. C'est sans doute le seul circuit et la seule écurie qui provoque ça systématiquement.
Et il a toujours rêvé de rouler chez Ferrari. Hein. Sauf quand il rêvait de rouler chez McLaren.
Voilà, et sauf quand il rêvait de rouler chez...
Chez Renault.
Et...
Non, ça, il l'a jamais dit, mais ça, personne peut le dire.
Bon, il a dû le dire une fois. En tout cas, il l'a pensé très fort.
Donc, au niveau des classements... Alors, ce qui est...
C'est la merde.
Non, mais... Ce qui est étonnant, c'est que... en fait, comme la semaine dernière... Mais dans l'autre sens, le classement du SAV va à contre-courant du vrai classement. C'est-à-dire, la semaine dernière, le classement du SAV se resserrait.
Oui.
Alors que le vrai classement, plutôt se décantait. Et là, c'est le contraire. Puisque, donc, au classement du SAV, Alonso est premier avec 183 points.
Youhou!
Deuxième, Sébastien Vettel, 176 points.
Non, tu continues, je te dis.
Marc Weber est troisième avec 168 points. Devant Hamilton, 165. Et Button avec 139. C'est bon. Au classement des équipes, Red Bull est premier avec 344 points. Devant Matt Laren, qui a 304 points.
Non, alors là, je dis, j'arrive au moment où je connais plus les paroles. Donc, s'il te plaît, continue de parler, parce que sinon, ça me met dans la merde.
Ferrari est troisième, 270 points. Mercedes, 158 points. Et Renault, 146. Dans l'autre classement.
On s'en fout.
Marc Weber est premier avec 187 points. Devant Hamilton, 182. Fernando Alonso, il remonte à la troisième place. 166 points. Button est à 165. Et Vettel à 163. Chez les constructeurs, Red Bull.
Là, je le maîtrise pas, celui-là.
Red Bull est premier, 350 points, devant McLaren, 347. Ferrari est troisième avec 290 points, Mercedes 158 points et Renault 127. Notez que Renault ne peut plus être titré. Et chez les pilotes, ça va que jusqu'à
ils
Robert.
Ils sont plus que 15.
ils étaient déjà plus que 12, donc je sais plus quoi. Ils sont plus que 8.
Ah, on se rapproche.
Donc Schumi peut plus être titré.
Non, fais pas ça. T'en vas pas, Schumi. Oh, j'ai trouvé une nouvelle chanson.
Ah, non.
Pour sa future retraite.
On va passer au fait marquant de la course.
Oui.
Donc, le fait marquant du Grand Prix de Belgique. Vous avez été 32 à voter.
Et je vous remercie.
Donc, en quatrième position, la victoire d'Hamilton qui le replace en tête du championnat. 3%, un vote. C'était qui avait proposé ça?
Je crois que c'est Fab, non? Oui, c'est Fab.
En troisième position, le mauvais week-end d'Alonso, 9%, 3 votes.
Ça, c'est Bujor.
En seconde position, le départ raté de Weber, bien rattrapé en course, 16%, 5 votes. Et quand même, 23 votes, 72%, c'est pas mal, sachant qu'il y avait quand même 4 propositions. La énième erreur de Vettel qui entame ses espoirs de titre.
Contre nous de la tyrannie, c'est Dino qui a vraiment gagné. Il va finir par éclater chez Giro et championnat interne du SAV.
Alors, est-ce que on a un fait marquant des auditeurs?
Alors, en fait marquant, nous avons deux propositions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme il y en a deux. Bon, là, il y en a deux, donc ça pourrait le faire. Mais bon, si jamais on en a 7 ou 8 propositions, on va pas non plus faire un sondage avec 9 propositions.
Oui.
Donc, faut en choisir qu'un. Donc, on va en choisir qu'un. Donc, moi, j'ai les énoncés. Toi, tu ne les as pas, Shinji. Donc, d'accord. Je vais te donner le choix entre... On va faire, à la vieille époque du concours ta proposition, je vais te donner, demander de choisir entre Margherita ou 4 saisons.
Margherita.
Et donc, c'est le fait marquant proposé par Iceman Air que nous allons retenir, qui est l'énorme erreur d'Hamilton dans les premiers virages, dans le premier tour. Voilà. Donc, oui, c'est le fait marquant des auditeurs.
Fait marquant des auditeurs. Donc, c'est à moi. Alors, qu'est-ce qui reste? Je vais parler de la stratégie de pneus de Vettel.
La stratégie de pneus de Vettel. Et moi, je vais tout simplement mettre modestement Alonso qui conquiert Monza. C'est modeste.
Ah oui.
Comme ça, je pourrais te balancer dans 2 semaines. Bon, tu sais, à l'époque, je comprenais pas pourquoi t'avais choisi ça, parce que t'avais d'autres possibilités, hein. Donc voilà, vous pour voter, bon, on s'en fout, de toute façon vous votez tout le temps avant, alors.
Oui, donc.
On émerdez-vous, si vous voulez qu'on vous dise.
De toute façon, c'est sur la page d'accueil, alors.
Voilà.
On passe au drive-thru.
Non, faut que j'arrête.
Comment on dit drive-through en italien?
Drive-through,
passer au travers. Voilà, rouler au travers.
Drive en anglais c'est conduire, donc c'est pilotare. Penalità.
Penalità.
Penalità. Voilà, je vais regarder comme ça, c'est très bien. La penalità. Non mais je crois que les Italiens disent aussi drive through.
Oui.
Ils le disent à l'italienne, ils disent un drive through, tu vois. Un drive.
Oui.
Tu vois, un peu comme
ça, c'est
comme...
Flavio ça.
Mais les Italiens sont comme ça. Ils sont un peu spéciaux les Italiens. On est dans un autre univers, quoi. Entre l'univers de Shinji et l'univers des Italiens, on est quand même gâtés, quoi. Hein? C'est quand même deux civilisations. J'ai trouvé mon lien! C'est quand même deux civilisations qui à elles seules peuvent faire basculer le monde, quoi. On a une civilisation qui a longtemps dominé sur le monde, pendant à peu près 5-6 siècles, et
oui.
On sent arriver les prémices d'une nouvelle civilisation, celle du Shinji, hein, qui est une civilisation où il n'y a plus de langue, c'est la fin de la civilisation, quoi.
Dans la merde.
C'est la chute de l'Empire, quoi.
J'ai rien à dire. Donc, est-ce que les auditeurs nous ont donné des drive-through?
Oui, oui.
Toi, t'as déjà basculé, toi.
Le mec qui se réveille. Moi, ça y est, je suis dans l'univers de Shinji, là, c'est sombre. Donc oui, on a deux drive-through, un proposé par Globen. C'est un drive-through, c'est un drive-through deux en un. On va appeler ça un drive-through head and shoulders.
Ah.
Voilà. Me demande pas que, testa et Paula.
J'ai rien dit.
Qui nous dit donc un drive-through amical pour la réalisation qui alternait entre Ferrari, Liuzzi, Schumacher et les Toro Rosso, surtout lors de la première séance de qualification. Et mention spéciale aux mécanos de Ferrari et Red Bull, ainsi qu'à la foule qui prouve à Bernie qu'un Grand Prix en Europe, ça a plus de gueule qu'en plein milieu du désert.
Ah oui.
C'est vrai que voir cette piste de Monza envahie par la foule, oui. Moi je trouve ça génial.
Voir les gens des équipes se dépêcher de tout récupérer pour éviter de se faire piquer des trucs.
Et donc on a un deuxième drive-thru proposé par Sato Kamikaze qui nous a envoyé un fichier audio.
Oh.
Ah, il fait les choses en grand, Sato Kamikaze.
Bonsoir ou bonjour aux auditeurs. Alors voilà, j'aimerais émettre un drive-thru aux mecs en fait qui direct après la panne de Vettel, ils sont allés voir le Twitter de F1 La Une pour dire « Ah ouais, et si c'était une consigne ?» Déjà, si c'était une consigne, ça se verrait un petit peu plus quand même, parce que je vois mal Vettel gueuler « Ouais, mon moteur est en panne », alors que c'est une consigne. Parce que s'il ferait ça, ça veut dire qu'il serait au courant, et je vois mal Vettel accepter une consigne. Bah oui, hein, c'est pas mal ça. Donc voilà, je trouve ça idiot de penser direct à une consigne d'équipe dès que il y a un équipier qui, enfin, dès qu'il y a un pilote qui passe son équipier avec facilité. Je trouve ça un peu abusé. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire.
Bon, on en a parlé. De toute façon, je l'ai dit, hein, ne serait-ce que avec l'électronique qui est commune à toutes les équipes, on n'a pas pu télécommander la voiture. Ça, c'est clair.
Non,
il s'est passé un truc, puis voilà quoi.
Non, il aurait pu ralentir et après faire la comédie, quoi. Genre, oui, j'ai compris ton message. Mais de façon, bah merde, le moteur il marche plus, merde, je suis trop triste, oh c'est vraiment dommage, j'ai laissé passer mon coéquipier en plus.
On est au pays de la comédie dell'arte.
Oui, voilà. Non mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que indirectement le flou qui persiste, et c'est ça aussi qui est dommage dans la décision de la FIA, c'est-à-dire que on a retenu finalement qu'une décision sur Ferrari, mais on n'a pas vraiment véritablement poussé sur ce qui allait être fait. Il y a toujours ce flou, et c'est ce que je disais, ce genre de manœuvre a toujours existé. Mais Ferrari, ils ont mis en évidence le fait que ils ont brisé l'illusion que ça n'existait plus. Et donc aujourd'hui, ouais, du coup, on a l'effet inverse qui est de tout suspecter. Voilà, bien évidemment que faut être un bien piètre connaisseur de la F1 pour penser que Sébastien Vettel et Red Bull vont donner ce genre de consigne en faveur de Weber et vont l'exécuter. voilà, c'est quand même, enfin voilà, au moins cette saison, si vous avez suivi la Formule 1, vous avez déjà un petit doute. Même Buchor, il le sait alors qu'il connaissait même pas la F1 avant, au bon vieux temps de Raikkonen par exemple. Donc, mais voilà. Alors après, effectivement, ça fait partie d'une espèce de mécanisme. Et honnêtement, le premier truc que j'ai dit en voyant ça, voilà, je l'ai dit en plaisantant, mais j'ai dit, voilà, regarde, c'est la consigne, t'as vu, il se fout de la gueule du monde. Regarde, Vettel, il laisse passer Weber. Puis bon, après, oui, non, voilà, mais c'est vrai que sur le coup, je suis sûr qu'on y a tous indirectement pensé. Ou alors, ça a peut-être tout simplement été dit sur le ton de la blague. C'est sur Twitter, donc on n'a pas forcément les ouais, intonations derrière. Ça a peut-être été dit de façon humoristique ou justement pour provoquer une réaction des commentateurs, et c'est tombé à plat parce que la réaction de Malbranche, il l'a pris au sérieux alors qu'il fallait peut-être le prendre sur le ton de l'humour.
Oui, j'ai deux petits drive-through.
Oh merde, j'ai dit, moi j'en ai même pas un, tu vas me forcer à en trouver deux, merde.
ça va être court parce que c'est deux choses auxquelles on a parlé. La première, c'est sur les petites équipes, les candidats cette année. Donc la FIA n'a pas choisi de 13e équipe. Ça serait très facile de taper sur la FIA, parce qu'après tout, ils ont fait un appel d'offres, les équipes ont dépensé de l'argent. J'ai aussi un peu envie de défendre la FIA. Faut avouer quand même que les candidats qu'on avait cette année, c'était... Bon, déjà, l'an dernier, quand on a appris les nouvelles équipes, on se posait des questions. Faut avouer que cette année, c'était pas super emballant. Il y avait des projets qui étaient intéressants comme Hart, mais ils sont partis avant.
Surtout que Hart, c'est un projet qu'on attend depuis très longtemps.
C'est vrai que bon, à la rigueur, on connaît Epsilon Euskadi, mais comme ça a été dit sur le site, ils ont même pas réussi à récupérer de l'argent pour aller au Mans. Et c'est pas les mêmes budgets.
Bon, c'est pas non plus la même exposition.
Non, c'est pas la même expo, on est d'accord.
Mais... Un sponsor va peut-être plus claquer, mais il sait qu'il aura plus de visibilité, donc il aura un meilleur retour sur investissement en sponsorisant, en tout cas en aidant une équipe de Formule 1 qu'en aidant un prototype qui n'est quasiment pas filmé, qui n'est quasiment pas regardé, sauf par un cercle du sérail très très fermé.
Stéphane Grand Prix, c'est une chimère. Et quant au cas Jacques Villeneuve Durango,
mais c'est ça qui est problématique aussi, c'est que dire que on a à la fois des projets qui sont assez sérieux, Epsilon par exemple, ou même Villeneuve Durango, même si Durango c'est un peu comme HRT quoi, ils ont quitté le GP2 comme Campos parce que ils n'arrivaient pas à suivre financièrement, et après ils veulent s'engager en Formule 1. Ah bah oui, bah c'est le même destin que Campos qui les attend. Ce qui les rendait solides, c'est l'appui de Villeneuve, oui, les soutiens financiers notamment nord-américains qui l'auraient pu ramener. Mais encore une fois, Villeneuve n'étant pas capable de ramener de l'argent pour faire ne serait-ce qu'une demi-saison de NASCAR, comment est-ce, oui, qu'il peut ramener de l'argent en Formule 1, qui sont des outils médiatiques pour le coup de poids identique. C'est-à-dire que l'argent que tu vas investir, tu vas peut-être investir beaucoup, mais tu vas avoir des retombées avec. Bon, oui, l'inconvénient, c'est qu'il y a un mélange des genres qui fait que bah t'es obligé de te retrouver. Tu te retrouves avec des projets pas sérieux comme Stéphane Grand Prix, qui ont totalement, de mon point de vue, décrédibilisé les nouvelles écuries et qui mettent un petit peu tout le monde dans le même chapeau alors qu'ils ne le méritent pas forcément.
Et donc mon deuxième, mais j'ai pas envie d'être méchant, c'est quand même contre Jean-Louis Moncey, son annonce... Oui, Lotus, je vous le dis, l'an prochain, Lotus ne sera plus là. Ouais, bon, dire qu'il y a des rumeurs à la limite,
oui,
des rumeurs, il y en a tout le temps, il peut le dire. Oui, il y a des rumeurs qui disent que là, quand même, c'est limite si c'était pas une annonce officielle de Jean-Louis Moncey. Donc voilà. En même temps, il a juste peut-être mal compris, hein, parce que, comme je l'ai
oui,
dit,
voilà, mais c'est
de certaine façon, il a raison, hein, Lotus Racing ne sera plus là l'an prochain.
Alors, qu'est-ce que je vais mettre moi de mon côté comme drive-thru?
T'as tellement aimé de choses pendant ce week-end, c'est chiant. Hein.
Je mettrais un drive-thru à Ferrari.
Ah.
Oui, parce que j'ai quand même malgré tout, alors Ferrari fait un super week-end, mais j'ai quand même l'impression que Ferrari a jeté dans ce week-end les dernières forces dans la bataille et qu'il tente de sauver les apparences d'une saison qui est loin d'être à la mesure des ambitions et des espérances affichées en début de saison. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est bien de briller à domicile, mais j'espère vivement que, comme l'ont dit plusieurs commentateurs, enfin plusieurs auditeurs dans leurs commentaires, j'espère que ça sera concrétisé par la suite et que ça sera renouvelé, même si c'est pas forcément, il y aura pas forcément que des circuits qui leur iront. Il faut pas que la belle victoire de Monza, c'est une magnifique victoire collective et individuelle. Il faut pas que cette belle victoire se limite à une espèce de coup d'éclat pour sauver la saison, comme Ferrari a l'habitude de le faire. Donc voilà, c'est un petit drive through à Ferrari, un petit avertissement pour leur dire attention. Voilà, vous redonnez de l'espoir aux tifosi, vous redonnez de l'espoir aux fans de Ferrari que certains d'entre nous sommes. J'espère que derrière il n'y a pas une manœuvre finalement pour sauver les apparences à Monza. Voilà.
En même temps, je pense qu'ils sont en meilleure position qu'un McLaren pour les dernières courses. Parce que McLaren, on savait qu'il serait très bon à Monza, et on savait que ça serait sans doute la dernière course de la saison où il serait aussi bon.
Ouais, mais maintenant, est-ce que McLaren n'aura pas eu le temps, justement, jouant sur ces, entre guillemets, facilités sur Spa et Monza, est-ce qu'ils n'ont pas eu plus de temps, du coup, pour vraiment réfléchir à des packages pour la fin de la saison et s'améliorer un petit peu? Voilà, c'est vrai qu'on a, là on vient de passer par deux grands prix qui ont été favorables à McLaren, mais on oublie que le McLaren d'avant ces deux grands prix, c'était un McLaren qui était en train de se dépatouiller de problèmes dont ils avaient du mal à sortir. Et c'est vrai que Singapour, de ce point de vue-là, sera un vrai indicateur parce que McLaren y est bon. Voilà, Hamilton y a gagné l'an dernier. Et voilà, on verra si effectivement la McLaren est capable de rivaliser avec la Ferrari et avec la Red Bull. Mais la vraie question, ça sera de savoir si Red Bull confirme.
Rien d'autre? Tu n'as pas d'autre drive fou? T'as déjà eu du mal à en trouver un?
Alors, en plus, celui-là, il m'est venu vraiment, mais alors là, il m'est venu du fond du cœur à la dernière seconde.
On passe au concours. Alors, quelle était déjà la question de la semaine dernière?
Donc la question était, quel autre événement international a accueilli Spa cet été? Et la réponse, Shinji, était...
Fallait pas dire les 1000 km de Spa et tout ça, parce que c'était pas ça, non. Ce qui s'est passé cet été, de sportif à Spa, c'est qu'il y a eu, donc c'était une arrivée, oui c'est une arrivée, hein.
Oui, deuxième étape.
Une arrivée de la deuxième étape du Tour de France, puisqu'ils partaient des Pays-Bas, donc passés par la Belgique, ils se sont arrêtés à Spa. Mais pas sur le circuit.
Non. Alors que ça arrive des fois qu'il y ait des... Il y avait d'ailleurs, je crois, un contre-la-montre sur Spa ou Zolder, je sais plus. Voilà, alors c'est une étape qui je crois a été gagnée par Sylvain Chavanel et qui a précédé, pour ceux qui ont un peu suivi le Tour de France, qui a précédé la fameuse étape des pavés.
Cette étape de Spa n'était pas une étape où il y a eu beaucoup de pluie et il y a eu des chutes.
Oui, voilà, il y a eu plein de chutes vers la fin. C'est une très belle étape d'ailleurs.
Alors, avons-nous eu des réponses?
Alors oui, chez nous, nous avons eu trois réponses. On vous rappellera quand même que nous avons eu deux de nos auditeurs la dernière fois, donc c'est pas facile. Trois réponses, dont un nouveau participant.
Ouh.
Hey. Mais je ne t'en dis pas plus, Shinji.
Ah non.
Alors je vais te, comme d'habitude, te proposer les trois questions, te donner les réponses si jamais tu les as pas, et puis les couper au montage, et tu choisiras la meilleure des, enfin celle que tu préfères parmi ces trois questions. Alors la première question est: qui était surnommé le gorille de Monza?
Ça, je ne sais pas, honnêtement.
Ensuite, en quelle année Ferrari s'est-elle inspirée du circuit du Grand Prix d'Italie pour nommer une de ses voitures de course?
Ouais.
Et sinon, donc, la troisième question est la suivante. Sur les 113 pilotes italiens ayant participé au championnat du monde de Formule 1, combien furent champions du monde? Et quand, accessoirement? Donc voilà, Shinji, tu as les trois questions entre les mains. Laquelle vas-tu choisir?
Je t'avouerai que celle du milieu, la deuxième avec la petite anecdote.
Oui, elle te plaît bien.
Ouais. Je ne dis pas parce qu'à la limite, on peut demander justement...
Oui, c'est pour ça que...
Si il cherche, voilà.
Il peut y avoir une question subsidiaire dans cette...
Et j'aime bien, voilà, j'aime bien celle-là.
Voilà. Donc alors, c'est la question suivante. En quelle année Ferrari s'est-elle inspirée du circuit du Grand Prix d'Italie pour nommer une de ses voitures de course? Vous donnez le nom du modèle. Hein. Et vous verrez, en faisant vos petites recherches sur Wikipédia, qu'il y a une petite coquille. Donc si vous arrivez d'abord à nous donner la bonne réponse, ça sera très bien. Et si en plus, vous nous donnez la petite coquille, bah, vous aurez tout notre respect. D'accord? Et donc pour voter, c'est comme d'habitude, hein, pour voter. pour répondre, c'est comme d'habitude, vous allez sur le site du SAV, www.savf1.fr, rubrique contact, vous sélectionnez bien concours top pas position, et pour ceux qui ont l'adresse mail directe du SAV, vous mettez bien le concours top pas position, vous nous donnez la réponse, les deux réponses dans ce cas, même si une seule suffira.
Je viens de voir la page, c'est pour ça.
Ah d'accord. Et donc, vous mettez la réponse et vous n'oubliez surtout pas de nous envoyer une question avec, d'accord ? Parce que j'ai pas forcément toujours le réflexe de vous dire « Ah, t'as oublié de mettre la question », donc du coup, bah, quand vous arrivez pendant l'émission, il y a pas la question, donc vous pouvez pas être choisi. Et donc, l'auteur de cette question qui a fait rire Shinji quand il a vu la petite anecdote, c'est Globen, qui ne gagne pas de magnette, mais qui gagne quand même son nom sur un bulletin pour le tirage au sort en fin de saison.
Ce système quand même marche vachement bien, parce que Globen gagne vachement moins quand même, oui, que l'an dernier.
Et donc nous pouvons quand même remercier au passage nos deux autres participants, Maël, pour sa question sur les champions du monde italien, et Loulaz, le nouveau participant, pour la première fois, qui nous avait proposé la question qui était surnommé le gorille de Monza. Et juste pour l'honneur, on peut quand même vous inviter aussi, par curiosité, à chercher, ou à, pourquoi pas, si vous le savez, nous donner la réponse. Voilà, de qui était le gorille de Monza, c'est assez intéressant.
Déjà, aussi, merci Loulaz d'avoir participé.
Oui, parce que, merci d'avoir participé. En plus, on a appris des choses nous-mêmes, donc c'était très bien. Donc voilà pour la question concours top position.
Sur... On arrive à la fin de cette émission. Évidemment, on va parler de... Dans 10 jours. Oui, c'est ça. Il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines?
Il y a 2 semaines.
Il y a 2 semaines. Et donc, ce sera Singapour.
Yes, by night.
Comme d'habitude. Alors, un petit prono.
Ça va être serré parce que l'an dernier, on avait une belle bagarre, si je me souviens bien, entre Vettel et Hamilton. Je donnerai un avantage à Vettel.
Moi, je dirais Weber. Non, mais le gros coup de Trafalgar, il va mettre 30 points dans la vue à Vettel. Ils vont être dans la merde, Red Bull, pour choisir.
Donc vous, chers auditeurs, on vous le demande pas.
Sur ce, on va, comme d'habitude, remercier nos partenaires sites, nos partenaires du Tour Mécatech, quand ils le font. Mais en même temps, quand ils le font pas, toi non plus, tu fais pas le tour, donc
J'ai plus le jeu, je l'ai donné à mon neveu. Voilà, donc j'ai plus le choix maintenant, vous devez faire 100, je sais, ça vous manque. Alors, je dois être honnête, j'ai fait le tour du Grand Prix de Hongrie.
Que tu nous promets, oui, depuis longtemps.
Que je vous promets, sauf que il est très drôle parce que j'ai gagné, et ma réaction quand je gagne me fait un peu honte, donc... Pour le moment,
tu es un lâche. Tu es un lâche.
Pour le moment, je le garde. J'en ferai un avec F1 2010, puis je verrai peut-être pour mettre le deuxième en bonus track. Sinon, puisqu'on parle de nos partenaires, on peut peut-être parler d'une petite initiative qu'on a décidé de prendre. Vous le savez, on vient de fêter les 2 ans du SAV, et depuis 2 ans, on s'est un peu développé, on a un site, on essaye de vous proposer des concours, vous avez le concours pronostic, vous avez le concours top opposition, avec on espère un beau cadeau qui vous fera plaisir à la clé. On essaye de mettre en place différents projets, on a envie de développer un peu le site, développer aussi la communauté, et vous récompenser aussi de votre fidélité, par en vous faisant participer à des concours, où vous gagnez autre chose qu'un bulletin de vote pour le moment. Et donc, malgré tout, depuis 2 ans, on se refuse à utiliser la publicité, à vous imposer des pubs Google ou des pubs AdSense et compagnie. Enfin, quoi que c'est pareil, je crois. Et on a plutôt eu envie de réfléchir à des choses qui vous permettraient de nous aider à d'abord financer le site et ensuite à financer des projets ou des cadeaux qu'on voudrait faire, où finalement vous seriez pas victime et vous seriez aussi des acteurs, c'est-à-dire que voilà, vous en achetant quelque chose, vous avez quelque chose et en échange vous aidez le SAV à se développer et à rentrer un petit peu dans ses frais. Donc voilà, donc on a décidé d'ouvrir une boutique Amazon. Donc pour ceux qui sont habitués à Amazon, le principe est assez simple. Vous voulez acheter des jeux, donc dans la boutique on va mettre que des produits liés à la F1, au sport automobile en général, mais surtout liés à la F1. Donc vous aurez bien évidemment accès aux futurs jeux de F1 2010, etc. Et le principe il est assez simple, c'est-à-dire que vous, si vous avez l'habitude par exemple d'acheter sur Internet, Eh ben, si vous avez envie d'aider le SAV, vous passez par la boutique du SAV, vous achetez, voilà. Vous, ça vous change rien, c'est pas plus cher.
C'est pas plus cher.
Et par contre, nous, voilà, l'intérêt, c'est qu'à chaque achat, on a une prime de 5%, donc on nous reverse 5% du prix d'achat. Ce qui permet, bah, finalement, bah, l'objectif, c'est d'abord de rentrer dans les frais d'hébergement. On a un hébergeur, ça coûte un peu d'argent. Et puis, effectivement, de vous permettre de réunir une petite cagnotte pour proposer des cadeaux, pour proposer un peu plus de concours, développer un peu des idées de concours, etc. Voilà, donc on va mettre ça en place sans doute dans la semaine.
Donc, on présentera la boutique. On a déjà mis des produits. Si jamais les auditeurs avaient des idées de produits, faut pas hésiter à nous... Je veux dire, à la limite même, si vous souhaitez acheter quelque chose qui est lié à la F1,
et vous voulez aider le SAV.
Et vous savez, vous nous dites, oui, je voudrais acheter ça, c'est sur Amazon, mais c'est pas dans votre liste. Bah, c'est pas grave, nous, on le rajoute dans la liste, il y a aucun souci.
Et voilà, donc c'est vraiment, c'est honnêtement, voilà, c'est on n'a pas envie de faire dans la marchandisation du SAV, sinon ça fait longtemps qu'on aurait fait des boutiques, etc. Non, on a juste envie, voilà, de vous donner.
Tu sais, peut-être qu'il y en aura une. Hein,
oui, c'est vrai, oui. Donc voilà, donc on mettra ça en place dans la semaine. Et puis voilà, on préfère vraiment vous expliquer l'intention qu'il y a derrière pour pas que vous dites voilà, ils se prennent la tête, ils font une boutique. Non, l'idée c'est vraiment.
Vous n'êtes pas obligé, ça vous coûte pas plus cher. Voilà, voilà, c'est vraiment si vous avez envie.
C'est vraiment une alternative qui vous permet.
Et puis bon, c'est Amazon, il y a quand même c'est du sérieux, c'est pas non plus. Voilà.
On est des utilisateurs, donc on connaît le sérieux d'Amazon.
Voilà. Sur ce, on vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine jusqu'à la prochaine course et la prochaine émission. On vous salue et on vous quitte sur ces quelques mots.
Comme dit le proverbe Milano, Turino, Vénitien, Romain, à force de se cabrer, le Fernando voit rouge.